Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui babouline les films à la sortie. Salut Thierry.
C'est moi, c'est Babouliné.
Non, enlève ça. Salut.
Alors, on n'est pas en vidéo, mais c'est vrai que tu es celui de l'équipe qui se rapproche le plus de Vin Diesel.
Ouais. Enfin, un Vin Diesel vieux, bedonnant. En fait, un Vin Diesel, tu sais, qui aurait fait du travail pour rentrer dans un rôle, quoi. Si on lui disait, vas-y, je sais pas, moi, joue Donald Trump. Ou joue Casimir le film, tu vois.
Tu es un Vin Diesel de film d'auteur, oh là là.
Ouais, voilà. Au moins, c'est flatteur, quoi. Je suis Vin Diesel de film d'auteur. J'ai pas le physique, j'ai pas le talent, tout va bien.
Vin Diesel chez Carver et Delépine, en fait.
Ouais. Je s'appelle Groot.
Oh mon dieu.
C'est quoi cet accent russe?
Je t'offre le Gérard tout de suite.
Mais c'est pour la version russe, c'est ça.
On prend tous les marchés.
Putain, ça fait 30 secondes, j'en peux déjà plus.
Nous avons notre Vin Diesel, nous avons aussi notre ami extraordinaire, Yassa.
Hello.
Et enfin, pour que l'équipe soit complète, il nous manque celui qui était enfermé dans une salle et qui a demandé l'intégrale de Romer restaurée 4K. Ellie, salut Ellie.
Salut. J'ai toujours pas eu mon intégrale Romer d'ailleurs.
Et oui, on peut pas tout avoir, on n'est pas dans The Room. Aujourd'hui, une émission un peu exceptionnelle, enfin exceptionnelle, depuis le confinement en fait, depuis la fermeture des ciné, toutes les émissions sont exceptionnelles. Ici, on va pas parler d'une plateforme en particulier, on va parler de films qui auraient dû sortir en salle et qui sont sortis directement en ligne, en disant...
C'est bon, je me casse.
À la chronologie des médias. Donc aujourd'hui, on allait parler de ces films qui ne sortent pas en ciné et qui donc vont sortir directement en VOD. Donc vous savez, ces films, là, quand vous prenez le métro, le bus, les transports, vous voyez des affichages comme ça, bientôt au cinéma, hein, comme Ford ou Pinocchio ou d'autres. Et en fait, non, ils sortiront jamais. Ils sont allés directement en ligne. Non, les cinémas sont fermés et donc il a fallu... être pragmatique et tirer du pognon quand il fallait. Donc nous verrons aujourd'hui, parmi ces films malheureux, on va commencer dans le voisinage, tranquillement, avec l'extraordinaire Mr. Roger.
Voilà, t'as raison, on va se chauffer comme des diesels pour le dernier film.
Avec Tom Hanks, voilà. Ensuite, on ira dans la chambre, dans The Room, avec Olga Kurylenko. Et enfin, on fera tout péter avec Bloodshot et Vin Diesel. C'est un beau programme, ma foi. Alors, pourquoi ces films ne sont pas sortis? Tout simplement parce que le Covid a frappé, que les salles de cinéma sont fermées, et que, plutôt que rester enfermé, d'une part, dans la chronologie des médias, et d'autre part, pour amortir et limiter la casse, ces films sont sortis directement en VOD, ou en ligne sur des plateformes SVOD. C'est le cas des deux films Sony dont on va parler, d'ailleurs, parce que, oui, on n'a pas fait exprès, mais on a deux films Sony qui ont eu la même stratégie, Mr. Roger et Bloodshot.
C'est vraiment la thèse et l'antithèse, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est comme quoi le même studio, la même boîte de prod peut sortir les mêmes choses avec la même stratégie. Alors, ils devaient sortir en salle et puis les films ont fermé. Ensuite, donc, aux alentours de leur date de sortie prévue, ils sont sortis en VOD, c'est-à-dire qu'on pouvait payer à l'acte, à l'achat pour les louer. Et le mois suivant, ils étaient sur Amazon Prime. Ouais, donc on a une pensée pour tous ceux qui ont loué Bloodshot ou Mr. Roger et qu'une semaine après s'est retrouvé sur Amazon.
Même si le film s'était pas retrouvé sur Amazon, une pensée pour tous les gens qui ont loué Bloodshot de manière générale, je pense.
Et encore, bon là, en France, c'était à des prix... c'était quand même cher. C'est 12 balles ou 14 balles, suivant les plateformes. Oh. Enfin, et donc, le prix d'une place de ciné, aux États-Unis, c'était $20 la location.
What? Sérieux?
Ouais.
Je pense que si on collecte tout l'argent qui a été dépensé pour louer Bloodshot, on peut peut-être trouver un vaccin contre le coronavirus. C'est très probable.
Je suis pas sûr. J'espère qu'il n'y a pas eu assez de couillons pour
ouais, amortir ce film, quand même. T'es quand même en train d'espérer que le film a marché, Ellie, indirectement.
Mais je crois qu'on est en train de spoiler notre avis sur le film. Petit avis aussi, c'est là qu'on voit que ça sert à quelque chose. L'exemple de ces deux films-là qui sortent en VOD, puis le mois suivant passe directement sur Amazon, où il suffit de s'abonner, et l'abonnement est au prix de la location du film. Donc c'est assez c'est curieux, du coup, comme système économique, pour pas dire autre chose. C'est là qu'on voit que finalement, la chronologie des médias, c'est pas si mal que ça, pour éviter ce genre de cynisme mercantile. Parce qu'on le rappelle, la dernière fois, on avait une émission, il y a pas si longtemps, avec nos amis Bigasson et Budakim, on est passé très très vite sur la chronologie des médias, et c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément à quoi ça sert. Et souvent, on entend la chronologie des médias, on peut pas avoir nos films sur Netflix, c'est dégueulasse.
Professeur Thomas,
nanana, 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 nanana,
c'est gagné.
Bah, la chronologie des médias, on en avait surtout entendu parler et en négatif, et pas forcément du coup avec des propos avérés et justes. Quand il y a eu toutes les affaires à Cannes aussi, et ça fait du coup 2 ans que ça dure. Le côté, si un film sort directement en VOD, par exemple les films Netflix, vu qu'ils ne participent pas à la chronologie des médias, et non, enfin ils ne sont pas inclus dedans, ils n'ont pas le droit d'être en compète en festival. Il y avait eu aussi tout ça. Et je pense que c'est à partir de là que tout à coup, les gens se sont mis à se réveiller et à comprendre qu'il y avait un truc qui s'appelle la chronologie des médias, quoi.
C'est ça. Alors la chronologie des médias, c'est quelque chose pour protéger les salles de cinéma, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est apparu avec la télévision, parce qu'on s'est aperçu qu'avec la télé, les gens allaient moins au cinoche parce qu'ils voyaient les films à la télé. Et puis ça a évolué quand même avec le temps. Avant, c'était imposé par la loi, maintenant c'est un accord interprofessionnel, donc c'est quand même, ce sont les professionnels du métier qui se mettent d'accord sur cette chronologie. Actuellement, la chronologie, c'est, alors il y a une exception pour les films qui ont fait un flop, enfin qui ont fait peu d'entrées, moins de 100 000 entrées en 4 semaines. Mais en gros, il faut attendre 4 mois pour une sortie en VOD ou à la location ou en DVD. Il faut attendre 8 mois pour passer à la télé payante, genre Canal, OCS, et qui ont un accord. Ils sont vertueux, c'est-à-dire qu'ils financent le cinéma français et ils ont un accord avec les organismes du cinéma. Après, il faut attendre 17 mois, donc déjà un an et demi à peu près, pour passer sur les TV payantes de ciné. Il faut attendre presque 2 ans, 22 mois, pour passer sur la télé. Voilà, pour passer à la télé gratuite, donc TF1, France Télé, M6, mais qui eux-mêmes financent la création française, ils ont un pourcentage qui est imposé par la loi pour rentrer dans ce cadre-là. Après encore 30 mois, c'est-à-dire 6 mois, enfin encore 8 mois plus tard, c'est la SVOD abonnée, donc qui sont pas vertueux, donc elles ont pas les contraintes de financement que pourrait avoir Canal ou OCS par exemple, mais qui quand même ont des accords. Et enfin, 3 ans après, 36 mois après, c'est les plateformes de SVOD, donc les Netflix, les Amazon, tout ça, qui en ont rien à battre, qui n'ont pas d'accord, qui sont un peu, comme ils financent pas spécialement, enfin, c'est pas qu'ils financent pas, c'est que ils se rentrent pas dans les accords, ils veulent faire leur bise avec leurs règles à eux, ils sont pénalisés, entre guillemets. Il faut attendre 3 ans. Et encore, il y a un dernier, il y a 44 mois pour la VOD gratuite, les YouTube et compagnie, c'est un cas marginal, c'est pas trop ça. Donc on peut comprendre que des Netflix ou des Amazon préfèrent sortir directement les films chez eux plutôt qu'en salle, parce que comme ça, ils les ont sur leur plateforme, puisqu'ils les ont financés. Et on comprend que certaines personnes soient énervées d'attendre, surtout les personnes qui sont pas dans les grandes villes, dans les grands centres-villes, qui n'ont pas tous les films, qui n'ont pas l'offre la plus large de cinéma, et donc qui doivent attendre que les films sortent en DVD au mieux, ou en VOD, pour pouvoir en profiter. C'est vrai que si on habite à la campagne ou autre, et qu'on n'a pas forcément de salle de ciné, ou même dans une ville moyenne, moi, je me souviens quand j'habitais à Béziers, pour avoir des films un peu indépendants qui sortent des grandes sorties, c'était très compliqué d'avoir quelque chose.
Donc, alors après, reste un peu ironique malgré tout, parce que quand tu constates, alors il y a évidemment le cas que tu me dis où toi tu voulais voir des films indépendants, mais c'est vrai qu'il y a aussi en grande majorité les gens qui se plaignent de la chronologie des médias, c'est vraiment à 95%. Parce qu'ils veulent voir Star Wars, parce qu'ils veulent voir Avengers, c'est tout le temps que sur des gros films qu'ils ont vus en salle, parce que même quand t'habites dans des villes de capacité réduite ou en campagne, ces films-là, tu les as. Ils se battent, le souhait en général est que sur ces gros blockbusters, et c'est un caprice de fan plus qu'autre chose, et c'est malheureux parce qu'ils veulent pas le comprendre du coup le principe du système, ils veulent juste cracher dessus gratuitement. Et si c'était pour des films plus, je vais pas dire intéressants, mais plus rares qu'ils n'avaient pas en salle ou quoi que ce soit, je comprendrais que ça agace, mais c'est vraiment pas le cas.
Mais il faut dire qu'aussi, le système, il n'est pas très clair. Enfin, il n'est pas accessible au large public. Il faut vraiment creuser. Et
tu tapes chronologie des médias, c'est assez simple quand même comme calendrier.
Déjà regarde comment tu as galéré à expliquer quand même. Ça prend du temps.
J'ai expliqué à l'oral ce qui se montre facilement sur un tableau en fait.
Mais c'est ça. Mais du coup, va expliquer qu'il y a un bénéfice derrière pour le cinéma français et les productions françaises. Quoi.
Permet de financer les salles de ciné. Moi, franchement, je suis plus contre. Je préfère aller voir un film sur grand écran que sur mon écran d'ordinateur parce que je suis pas équipé personnellement. Et c'est vrai que si, mais pour de nombreux films, parce que quand même il faut payer la place. Et alors moi j'ai de la chance, là en ce moment j'habite à Paris, donc j'ai un abonnement. J'ai de la chance, je suis pas dans une ville où je suis obligé de payer à la place. Et c'est vrai que si j'avais un film à la fois sur un écran de cinéma où je devrais payer 10 balles par exemple, ou 8 balles pour ma place de ciné, et le choix avec ce même film que je peux avoir chez moi sans bouger, peut-être dans des conditions moindres avec juste un abonnement, peut-être que je paierai pas pour aller voir ce film et que j'en profiterai pas. Et peut-être que même que je le verrai pas du tout d'ailleurs, parce que je ferai pas l'effort d'être de le voir.
Non, mais c'est sûr que de toute façon, pour des petits, enfin, pour des films en tout cas, parce que ouais, pareil, moi j'avais des potes qui m'avaient fait la réflexion, et eux, pour le coup, je les comprends. Ils habitent en campagne, ils adorent les films de genre qui sont distribués, allez, grand maximum, dans 4 salles en France, dont 3 sont à Paris, ce qui du coup est très compliqué. Et eux, ouais, ça les fait chier de se dire qu'ils vont devoir attendre parce que va pas y avoir de marché DVD pour ces films-là. Il va falloir que aller sur des plateformes, des fois changer de plateforme parce que ça va pas être celle qu'ils ont. Et là, ouais, c'est compliqué. Et là, en effet, il y a du temps d'attente. Mais après, je pense qu'avec le, comment dire, la masse de films qui sont proposés à longueur de semaine, on peut se permettre d'attendre 36 mois, ouais. On peut se permettre d'attendre 36 mois si on n'a pas envie d'acheter le film pour le posséder. On peut attendre 3 ans pour revoir un blockbuster qu'on a kiffé en salle parce que qu'en 3 ans, on va aller voir plein d'autres choses et on nous en propose plein à la semaine, que ce soit à la maison, sur les plateformes ciné. Enfin, ça va, il y a du contenu, quoi.
Oui, et puis ça permet aussi au film d'exister. C'est-à-dire qu'un film aussi, beaucoup de films existent grâce à la salle. C'est-à-dire qu'on va remarquer un engouement en salle, on va remarquer les salles de cinéma pleines. Par contre, c'est très compliqué de mesurer l'engouement pour un film téléchargé sur différentes plateformes ou autres.
Bien sûr.
C'est ce qui permet de mesurer. Alors, il y a les bons et les mauvais exemples, entre guillemets, même s'il n'y a pas de... C'est très subjectif, comme on va dire, mais c'est ce qui permet de mesurer le succès d'un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, parce qu'on a vu les gens faire la queue devant la salle, mais ça permet aussi de voir le succès d'un film comme Parasite. Un film comme Parasite, si on n'avait pas vu les gens en faire la queue pour Parasite, et si on n'avait pas vu le succès de ce film en salle, eh ben ça serait resté une des multiples palmes d'or dont on aurait parlé 15 jours après le Festival de Cannes et qu'on aurait oublié ensuite.
Je pensais à un truc, je me disais, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que on a plus de mal à accéder aux chiffres des plateformes qu'aux chiffres des entrées en salle, en fait?
Il y a ça aussi qui joue.
Ouais.
On n'a même pas accès aux chiffres des plateformes. Enfin,
oui, non,
pas.
Mais c'est ça. C'est, voilà, c'est opaque. Très général, on ne sait pas ce qui rentre en compte,
Netflix,
les
ils ont donné des chiffres pour des trucs genre Bird Box, mais on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Ils avaient dit que ça avait fait l'équivalent de. Je sais plus combien d'entrées, mais un truc qui est faramineux, enfin, c'est colossal, et c'est peut-être vrai. Et en plus, il y a le temps de visionnage effectif, enfin, il y a plein de données qu'on peut pas.
Mais voilà, c'est surtout combien de temps de visionnage, hein, parce que tu vas me faire croire que Bird Box, l'intégralité des gens qui ont regardé, l'ont regardé en entier, c'est impossible.
C'est ça. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué à quantifier, de toute façon, le visionnage numérique.
Et puis, on sait aussi que ceux qui profiteraient de l'abandon de la chronologie millénia, ça serait les gros, de toute façon. Ça serait les grosses enseignes de salles de ciné, et ça serait les gros studios avec leur grosses armadas. Parce qu'ils squatteraient les grosses salles, donc ils auraient assez d'entrées pour être à peu près rentables, alors que les petits, qui déjà, même avec ce système de protection, survivent un peu comme ils peuvent, donc si on leur coupe ça les empêche de vivre. Comme ce sont la plupart du temps des petites salles qui passent les petits films, entre guillemets, parce que... ils sont obligés de jouer à côté parce que les grosses affiches sont squattées par les gros. À la fin, si jamais on supprime ça, ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir, le force de frappe de communication qui l'emporterait. Donc ceux qui peuvent mettre un budget communication, et ce seraient les gros studios qui s'en sortiraient. Donc effectivement, si on aime Marvel et Disney, c'est super de supprimer la chronologie des médias. Mais si on voudrait regarder
si on veut voir
autre chose
oui.
Mais autant la garder.
C'est vraiment la mort de la diversité au cinéma. Et d'autant qu'en plus, en France, on peut se targuer d'avoir en salle une diversité assez folle. Peut-être dans le monde, je ne sais pas si beaucoup de pays peuvent rivaliser avec nous sur l'offre générale. On propose quand même, pas dans toutes les grandes, dans toutes les villes, bien sûr. Dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de choix. Mais tu peux vraiment avoir accès au cinéma de toute contrée, de quasiment tout ce qui peut sortir, en fait. Et ça, c'est quand même vachement un avantage.
Je pense que... Enfin, à l'étranger, dans d'autres pays, il y a suffisamment de films qui sortent. C'est juste qu'on n'en entend pas parler parce que, comme eux n'entendent pas parler des films français que nous on voit, quoi. C'est-à-dire que ça reste cantonné au pays.
Oui.
Je pense qu'il y a quand même suffisamment de.
Alors, pour mettre. On s'était renseigné parce qu'on avait vu avec Thomas au Festival du film coréen. On avait vu justement un film là-dessus sur les Coréens qui avaient fait des manifestations parce qu'ils ont un système de quotas là-bas. Mmh. Et alors, eux, c'est plus pour la préservation de leur propre cinéma. Enfin, comme nous avec la chronologie des médias. Hein. Mais c'est. Non, sauf que je veux dire, là on parlait de distribution, eux c'est plus dans la distribution en fait, le quota où il doit y avoir une majorité de films coréens proposés et après le reste. Et du coup, je m'étais renseigné et visiblement, alors la Corée c'est en train de se casser la gueule méchamment parce que visiblement Disney a passé des accords avec des gros billets et a diffusé, c'était la Reine des Neiges qui avait posé polémique, ils ont refait des manifs là-bas. Mais quand je m'étais renseigné, visiblement avec la Corée, nous sommes les deux seuls pays à avoir un système de protection du cinéma de patrimoine. Voilà. C'est compliqué.
Bah, du coup, la Corée fait des chefs-d'œuvre et nous, on fait
des très bons films aussi.
On fait des très bonnes choses aussi, et heureusement. Restons. Mais la Corée fait aussi des centaines de navets, t'inquiète pas, si
oui,
on voyait tout ce qui sortait.
Pas tous, c'est vrai. Voilà, c'est vrai.
Non, non, voilà. Après, je dis peut-être, enfin, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres systèmes, mais en tout cas, de ce que j'avais vu quand je m'étais renseigné un petit peu, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de pays qui protègent énormément leur cinéma et qui s'en foutent. Le cinéma, de toute façon, c'est considéré comme une industrie et un business partout. Et en France, on a la chance de pas avoir cette considération totale là-dessus, quoi. Donc oui, en effet. Après, voilà, sur la chronologie des médias, ce qu'on disait. Moi, je trouve ça un petit peu bâtard quand ça influe sur les sélections de festivals, parce que je considère que on devrait juger des œuvres et pas des œuvres sorties forcément en salle si les œuvres sont très bonnes. Mais d'un autre côté, voilà, pour ce qui est justement du marché de la VOD et de tout ça, oui, ça reste quelque chose d'essentiel parce que, bah, en effet, comme tu le dis, bah, ça finance quand même le cinéma français et on en a besoin, quoi.
Bah ouais, ça finance la création et ça finance les petits.
Bah d'autant quand tu vois, là, je sais plus où j'avais vu ça, t'as encore un auteur français qui veut faire du cinéma de genre, qui veut faire de l'horreur. Et vu qu'il arrive pas à se financer en France, il a passé encore un accord aux États-Unis et là, il s'en va.
Oui, alors.
Donc on perd encore du talent parce qu'on
finance. Alors, tu parles. Sauf que c'est le mec qui a fait Marianne. Donc de là à dire qu'il a du talent, je me pose des questions. Mais.
Ah, d'accord, je savais pas que c'était Marianne. J'avais juste entendu vite fait ça en diagonale.
mais je suis d'accord que c'est quand même un peu triste de voir un auteur français se barrer à l'étranger parce qu'il se trouve pas en France. Ça me fait chier. Mais après, bon.
Alors après.
J'avais aimé voir ce qu'il aurait fait d'autre, quoi. Oui, en plus, oui. Mais ça fait des années que
c'est genre, c'est particulier, c'est un truc de niche. En français, ça intéresse pas un public très large
c'est
en
vrai,
France.
C'est vrai.
Un public qui rentabilise pas forcément le film en France. Donc, ceux qui veulent faire du film de genre, souvent, tournent en anglais. Comme ça, ils peuvent toucher un public plus large à l'international. C'est encore une autre problématique, le film de genre. C'est une problématique dans la problématique.
Non, en tout cas, enfin, ça fait chier de se dire que dans un pays où on a un système, justement, de financement bien français et qui est censé fonctionner comme ça, qu'on ne finance pas aussi du cinéma de niche, c'est dommage. Voilà. C'est juste une petite parenthèse, quoi.
Oui. C'est vrai qu'on pourrait prendre une partie du pognon de Danny Boone sur le coronavirus. Parce qu'il va faire une superbe comédie.
Même,
sur le sujet.
Je sais pas, regarde le cinéma d'animation, c'est pareil. Le cinéma d'animation en France, c'est limite niette. Il y en a, mais il y en a pas assez, quoi.
Là aussi, c'est une autre question. Le cinéma d'animation, il y en a parce qu'il y a des studios d'animation en France parce qu'il y a France Télé avec France 4 qui est un gros client, qui commande beaucoup et qui permet justement de faire vivre les studios, qui permettent de vivre. Et alors après, peut-être que ça se traduit pas forcément en long métrage après derrière, mais il y a pas mal de studios d'animation qui sont ensuite recrutés pour autre chose. Bon, et là, il y avait le problème avec la menace de suppression de France 4, mais qui est remise en question avec le coronavirus, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, France 4, c'était très utile, et France Télé faisait du bon boulot. Donc ouais, ah oui, l'animation, c'est encore un autre sujet. On en parlera peut-être pour le Festival d'Annecy. Oh, ça tease dans cette émission. Mais on parlait de catastrophe, ça tombe bien, on a des films à commenter ce soir.
Ah, la transition.
Ah, c'était San Andreas qu'il fallait regarder.
Ouais, non, alors on a vu trois films dans la sélection. On a vu d'autres films non sortis. On les a pas mis parce qu'on les avait vus avant de faire le programme. On les avait trouvés pas terribles. Donc on se dit, on va en tenter d'autres, peut-être que. Et on va voir que c'est très mitigé comme constat. Je suis gentil au départ. Hein. On va commencer dans la douceur. On va commencer dans la gentillesse et la bienveillance. D'accord? Tous ensemble.
Hey, I'm looking for Fred Rogers.
In here.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Please, won't you be my neighbor? Hello, neighbor.
L'extraordinaire Monsieur Roger. Moi, je le dis en français. Hein. L'extraordinaire Mr. Roger, A Beautiful Day in the Neighborhood. Film américain de 2019, d'1h49, de Marielle Heller, dont on avait déjà parlé dans cette émission, puisqu'elle avait réalisé également Les Faussaires. Can You Ever Forgive Me?
De Manhattan.
En VO. Les Faussaires de Manhattan, c'est vrai, oui.
Elle bosse vite, Marielle Heller.
Ah bah, elle a carrément oublié le titre du film précédent, quand même, hein, pour te montrer à quel point ça marque.
C'est ça. Inspiré d'un article de Esquire Magazine. Can You Say Hero? Un film avec Tom Hanks dans le rôle de Fred Rogers, un animateur de programme éducatif pour enfants hyper célèbre aux États-Unis, et Matthew Reeves dans le rôle du journaliste qui doit l'interviewer.
Interviewer.
Et c'est beau, il y a du piano, il y a de la musique douce. Et puis Mr. Roger, il est super sympa. Et puis le journaliste, il a des problèmes dans sa vie parce qu'il est fâché avec son père et tout. Parce que bon, c'est difficile et tout, mais son père revient et il veut pas trop. Et Mr. Roger, comme il est très sympa et qu'il sent qu'il y a un problème avec le journaliste, eh ben, il va l'aider à renouer le lien avec son père et à faire la paix avec lui-même. Parce que Mr. Roger, il est sympa quand même. Il est sympa, ce Tom Hanks, quand même, non?
Bon, bah du coup, parlons de The Room, hein, parce qu'on a fini sur, sur Mr. Roger. Ah voilà, c'est... Beau résumé, hein.
Donc, Ellie, un petit mot sur ce film pour aller au-delà du résumé, quand même.
Bah, en fait, c'est ce que tu viens... C'est ça. Il est gentil, hein, Monsieur Roger. C'est con parce que ça, tu le comprends au bout de 2 minutes. Et après, le film, il passe son temps à décortiquer, à dire « Est-ce qu'il est gentil ?» Bah ouais, il est gentil. Ah, mais il est très gentil. Il est très gentil, quand même.
Ouais, mais alors, du coup, c'est peut-être un truc que je trouve intéressant, franchement, parce qu'il y a des trucs que je trouve pas mal dans le film, même si je m'en moque un petit peu, mais parce que enfin, j'ai pas trouvé ça terrible du tout. Mais il y a des trucs pas mal, genre bah, cet aspect-là du biopic, où, dernièrement, bah, les biopics, on essaie souvent de décortiquer les célébrités, voir ce qui va pas chez elles, etc. Ou alors c'est un truc qu'on reproche quand ça le fait pas assez. Et là, le film, justement, joue là-dessus à fond, en disant, est-ce que vraiment, ce mec est si parfait qu'il en a l'air ? Bon, franchement, spoiler, oui, parce que...
il est mieux.
Il est même mieux que ce que tout le monde pense. Et c'est peut-être le problème du film aussi, d'ailleurs. Il est trop parfait. Mais du coup, j'aime bien cet aspect-là, parce que du coup, c'est presque un truc qu'on voit pas souvent, ou qui change un peu des biopics habituels. Puis après, bah, avec ça, Marielle Heller, même si son style est toujours très académique, à part quelques petites saillies, les scènes de cauchemar sont pas mal. Enfin, elle rend même très intéressante, la deuxième. Et... Il y a tout son elle a un petit charme quand même dans sa manière de filmer, je sais pas, et dans sa palette de couleurs, là elle joue avec des miniatures, et je trouve ça c'est assez mignon et ça colle bien au film. Je trouve il y a tout un travail de reconstitution très beau et sincère.
Bah, moi je pense au contraire que c'est un des points forts du film, même s'il est un petit peu plan, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir de regarder quelqu'un ben qui se sent bien, qui vit bien. On se bouffe tout le temps des personnalités conflictuelles, des histoires à rebondissements compliquées, etc. Et du coup, ben là, voilà quoi. Il aurait été un peu plus court, ça aurait été cool.
Ouais, 1h50, c'est long quand même. Hein.
Voilà, 1h50, c'est long, 1h30, voire même 1h20. Enfin, un téléfilm, ça aurait été génial. Mais franchement, ça m'a pas rendu triste, ça m'a pas rendu énervé comme d'autres films. Ça m'a pas rendu nostalgique non plus. C'était juste good. Voilà, c'était.
Je suis assez d'accord. Non, voilà, je suis assez d'accord. C'est vrai que j'ai tendance à me moquer un petit peu et j'ai rigolé en disant qu'il était très gentil, tout ça. Mm-hmm. Mais oui, je vous rejoins autant Eddie qu'il y a ça là-dessus. C'est vrai que c'est plutôt beau, en effet, comme portrait, et ça fait plaisir aussi. Puis ça fait aussi plaisir de se dire qu'on s'intéresse à une icône américaine qui, voilà, n'est pas controversée, n'a pas de... n'a
ça
pas
change.
Voilà de passé tumultueux et c'est bien aussi de parler de ces gens-là, de leur dire en fait il y a quand même des gens qui sont pas tout simplement bien et c'est dommage parce qu'ils sont trop rares quoi,
bah,
surtout
quand,
dans ce genre de
milieu.
À quand
le film français sur Jamy du coup?
Mais c'est pas sorcier.
Mais j'aime.
C'est pas sorcier.
On n'a pas besoin d'un film, il suffit de regarder ces capsules de déconfinement. Enfin, c'est la première reco de l'émission. Regardez les capsules de déconfinement de Jamy, c'est un plaisir.
C'est vrai.
Non, mais en fait, enfin, voilà. Donc oui, le portrait de Mr. Roger, c'est très bien, c'est même très agréable. C'est vrai que c'est beaucoup trop long et que ça aurait pu tenir sur moins. Mais en fait, le souci au final, c'est que le film, justement, sait pas trop vers quoi il doit s'axer parce qu'il manque de consistance, il manque de mordant. Alors je dis pas qu'il fallait qu'il ait du mordant très agressif, mais il fallait en tout cas qu'il ait un angle d'attaque. Et du coup, moi j'ai eu du mal à me passionner. J'ai dit ah, putain, c'est intéressant, c'est bon, c'est un petit bonbon quoi, c'est un doudou, tu vois le film, t'as envie de serrer Tom Hanks dans tes bras. Et je pense que si je savais, enfin nous on n'est pas américains donc on n'est pas très familier de ça, mais si je connaissais Mr. Rogers, ouais c'est quelqu'un sûrement que j'aurais peut-être regardé enfant et à qui j'aurais eu envie de faire des câlins. Mais par contre, la partie qui a du mordant, c'est la partie autour du journaliste et de la relation conflictuelle avec son père, et là-dessus je trouve que ça se foire complètement, parce qu'au final c'est ça le fil conducteur du film, c'est la manière dont il va devenir finalement, lui qui est censé interviewer, il va devenir l'interviewé, ça tient pas quoi, ça passe son temps à pêcher, enfin ça vote en touche tout le temps.
Mais l'idée est bonne, tu vois, être pris à son propre jeu, c'est, enfin
oui,
l'idée de départ est bonne, elle est juste mal exécutée.
C'est ce que je dis, ça prend vraiment l'idée de, en fait ce que je pense qu'elle a voulu faire, c'est de montrer que, enfin, c'est le cynisme actuel est un peu agaçant. Elle essaie d'apporter un brin d'optimisme, mais je pense qu'elle y croit vraiment à son histoire, hein, et à Monsieur Roger, ses convictions, etc. Genre elle a envie de quelque chose, d'une société qui arrête de critiquer à tout bout de champ parce que c'est la facilité. Mais le problème, c'est que bah son discours un peu anti-manichéen, un peu tout le monde doit être gentil, etc., avec le personnage journaliste, bah, c'est bateau et c'est presque effrayant, en fait, à tel point c'est, ça vole pas haut, quoi. Enfin, j'avais l'impression, en fait, quand les gens parlaient dans cette intrigue-là, c'était des PNJ de jeux vidéo, en fait, qui banalisaient sur la vie, en fait. En mode, mais tu sais, il faut savoir être gentil avec les gens parce que bah, sinon, t'es triste. Je te dis, bah ouais, mais je m'en carre, en fait. Enfin.
C'est pas de cœur, Ellie.
Non, mais oui, non, mais ça va devenir un running gag le fait que je suis quelqu'un de très cynique, mais. Mais le fait est que là, c'est. En fait, j'aime beaucoup aussi les films très beaux, comme ça, très simples, mais là, c'est que c'est presque trop lisse, trop simple.
Mais je pense que c'est l'écueil dans lequel elle est tombée, c'est-à-dire que comme le personnage, enfin, que Monsieur Rogers s'adresse aux enfants, il y a cette idée de quand on parle aux enfants, il faut que ce soit simple, très simple. Et je pense qu'elle a essayé de retransmettre ça dans le film. Et du coup, ce qu'il nous donne, c'est vrai, des choses assez... qui manquent d'envergure, quoi.
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a ça, tu as dit tout à l'heure, ça aurait été bien un téléfilm. Mais en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir vu un téléfilm.
De deux heures quand même, presque deux heures.
De deux heures quand même, c'est ça.
Et mais en fait, non. Les téléfilms, c'est excessivement long, hein, généralement, parce que c'est censé te faire passer l'après-midi.
Ben c'est ça, mais t'es censé faire du repassage à côté, en fait. C'est pour quand tu restes à la maison à faire des travaux ménagers, quoi, les téléfilms. Et, ouais. Et là, c'est un peu ça. Et alors, moi, c'est vrai qu'il y a deux parties de ce film, en fait. Il y a les parties, l'émission de télé, où alors là, on est avec le grain de l'époque, on est avec l'ambiance, et ça, j'adore ce jus-là. Et puis, on est avec Tom Hanks qui est quand même Tom Hanks, donc
sublime.
Il est génial, c'est tout. Waouh, j'étais bluffé. Ouais. Le film commence sur le début de l'émission, en fait. On le voit, il ouvre la porte, il commence son émission, il descend les escaliers, il met sa veste, ses chaussures, voilà, il te montre ses petites fenêtres avec ses photos. J'étais captivé, je voulais voir cette émission. J'aurais voulu voir une émission de lui pendant une heure, en fait, j'aurais été super content. Et en fait, non, parce qu'il faut faire un film quand même, c'est censé sortir au Cinoche, ce truc-là. Et donc, on va te mettre donc l'histoire du journaliste et tout... qui va être retourné par ce Mr. Roger. Et du coup, dès qu'on passe au journaliste, en fait, on perd ce ton, on perd ça, on tombe sur quelque chose de plus conventionnel, plus plat, qu'on a déjà vu, qui est assez inintéressant au final. Donc, c'est le moment que j'ai pris pour, justement, pour faire mes lacets, faire autre chose à côté du film. Et c'est dommage parce que dès que Tom Hanks revient à l'écran et dès qu'on revient sur le show, dès qu'on revient sur le set, dès qu'on revient sur le plateau, il se passe quelque chose. Les scènes de rêve, pareil, elles se passent, entre guillemets, sur le plateau, il se voit. Avec les marionnettes, il se passe un truc. Et c'est dommage parce que c'est trop rare, ce sont de trop rares moments qui réveillent le spectateur au milieu de toute cette platitude.
Mais tu sais pourquoi je pense qu'on aime tous les moments où on est dans l'émission avec Mr. Roger ? Je pense que c'est parce qu'il donne cette impression que quoi qu'il se passe, ça va s'arranger. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Et du coup, il y a cette note d'espoir perpétuelle, en fait, avec lui, et de légèreté, parce que c'est pour les enfants également, et qu'on est encore tous des grands-enfants, quand même. Et puis, dès qu'on passe au journaliste, on est confronté à la réalité, et c'est pas franchement ce qu'on veut voir, quoi, parce que la réalité, on se la prend, nous aussi, quoi, dans la gueule. Donc, ça aurait pu être bien de transposer justement cet espoir et cette bonhomie dans le réel, mais ça prend pas, ça a vraiment pas pris.
L'histoire avec le journaliste prend pas, et c'est dommage parce que moi, Tom Hanks, il y a des moments j'avais les larmes qui pointaient, tu vois, un peu. J'étais ému parce qu'il m'a pris quand même avec son personnage.
Il y a que moi qui était gêné devant la séquence d'introduction. J'ai trouvé ça, après je sais pas, c'est que j'avais
pas du tout.
Je savais pas où trop mettre parce que j'avais l'impression que c'était à la fois trop enfantin, mais en même temps ça voulait parler aux adultes. Je savais pas trop quoi en faire.
Ellie, je sais pas si tu connais cette séquence de Big Bang Theory où tu as Sheldon qui fait son émission Fun with Flags, qui reprend un petit peu la présentation, enfin la vulgarisation telle que le faisait le professeur Proton, dont il est très fan. Et dès que j'ai vu la scène d'intro, ça m'a immédiatement fait penser à ça, tu vois. Ça m'a fait penser à Sheldon et le professeur Proton, et du coup ça m'a tout de suite mise dans l'ambiance de c'est une émission légère et on apprend des choses, voilà. Du coup j'ai pas du tout été déroutée par ça.
Et puis ça fait penser à toutes ces émissions pour enfants où t'as un acteur avec des gens en costume ou des marionnettes, Sesame Street, ça peut être aussi L'île aux enfants en France, qui était un peu comme ça aussi.
Moi, ça m'a rappelé Jean Rochefort qui présentait Winnie l'ourson, par exemple, ce genre de truc-là.
Les bébés dans les soleils, les Teletubbies.
C'est ça, mais par contre, les Teletubbies, j'y ai pensé quand ils regardent dans un cadre et qu'il y a la télé qui apparaît. Ça, j'ai vraiment pensé, oui. Ça m'a vraiment trop fait de bise. Mais non, mais je sais pas, moi, j'avais vraiment l'impression que ça savait pas trop où se placer, en fait, entre parler aux enfants, parler aux adultes. Et du coup, en fait, je savais pas trop où mettre, j'étais en mode, je sais pas si je dois regarder ça comme si j'avais des yeux d'enfant, ou si, vu que le film est un peu une sorte d'enquête en même temps, enfin, est-ce que il faut être un peu plus, justement, essayer de s'investir là-dessus. Et du coup, j'étais vraiment, mais j'étais en mode, bah, alors, oui, c'est Tom Hanks, c'est bon, je trouve. Et du coup, je le trouvais presque gênant, en fait. Mais c'est très personnel, hein. Et du coup, bah, après oui, enfin, il y a des moments où, bon, moi, j'ai pas eu les larmes aux yeux. Et je trouve le moment, j'ai pas envie de révéler, mais un moment où il joue avec le spectateur, directement. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Quand ils sont dans le restaurant avec le journaliste.
Ah oui, mais
ça casse le quatrième mur d'une certaine manière, même.
Oui. Oui, parce qu'on sent qu'il se le dit à nous-mêmes aussi.
Bah, et puis, à un moment, il tourne la tête et il nous regarde, en fait, à travers la caméra. Il y a un regard caméra très insistant. Bon, je trouve ça presque grossier, enfin, un peu abusé, mais bref, il y a des très beaux moments avec Tom Hanks. Je trouve qu'il est, enfin, le rôle lui va très très bien, en fait, de Monsieur Roger, parce que c'est un peu l'image que tout le monde a de Tom Hanks, je pense. Ce monsieur un peu trop gentil, enfin, qui est capable de tout faire, qui aime tout le monde. Quand on voit ses vidéos sur les réseaux sociaux, où il s'incruste à un mariage, il tape la bise à tout le monde, ou je sais pas, ce genre de truc-là. Enfin, moi, je le voyais un peu comme ça. Mais le personnage en lui-même, peut-être plus que Tom Hanks, là, dans le film, des moments, je trouvais ça presque... Enfin, je sais pas, je vais dire pas approprié, mais c'était très bizarre. J'avais un ressenti très particulier, moi. Mais c'est sûrement juste personnel, hein.
C'est peut-être le personnage qui est comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a ce mélange-là, mais oui, comme il fait une émission pour enfants et qu'on reproduit l'émission pour enfants, même si c'est un film un peu pour grand, oui, effectivement, il y a cette double lecture, effectivement. Est-ce que quelqu'un avait vu la série Kidding avec Jim Carrey, dont le personnage est inspiré de ce Fred
Rogers? J'ai même commencé la seconde aujourd'hui, donc oui. Après, ça n'a vraiment rien à voir, hein, parce que Kidding, justement, c'est plus dans la dénonciation, c'est plus cynique, c'est beaucoup plus... ça a beaucoup plus de choses à dire, en tout cas. Et non, ça montre plus les coulisses d'un homme en dépression, parce que Kidding, ça raconte l'histoire d'un présentateur qui est censé faire des programmes pour enfants très... très axé petite enfance et sur laquelle il doit parler de sujets toujours assez joyeux, toujours assez positifs. Sauf qu'il vient de perdre son gosse et qu'il est en train de partir en couille et qu'il a pas le droit de se le permettre. Et c'est très beau, en fait. Et c'est sur un homme qui se contient tout du long. Ça n'a vraiment rien à voir.
Bon, donc on est sur un traitement très très différent quand même, beaucoup plus lisse.
C'est plus à la limite les contenus de l'émission tels qu'on la voit dans Kidding qui font penser, oui, par contre, tout à fait à ce qu'on voit chez Monsieur Rogers. Ça, clairement. Mais par contre, oui, non, ça parle pas du tout de la même chose. Ça s'est inspiré de ces émissions, par contre, ça, oui, clairement.
Bien, je pense qu'il est temps de zapper. On dit au revoir à Monsieur Roger, on va quitter le neighborhood. On lui dit au revoir.
Au revoir.
On lui fait un câlin de loin.
Bye.
Bonne nuit, les petits.
Donc, on éteint la télé et on va dans sa chambre.
Oh.
Honey, the real Van Gogh.
Yeah, sure.
Where did you get all this stuff?
The room makes things. What do you need most in the world?
I want $1 million.
How does that work?
Who cares how it works? You just use it.
The only thing more dangerous than a person who can't get what they want is a person who gets whatever they want.
Get out of the house before it's too late.
The Room. De Christian Volkmann, réalisateur français, et oui.
Oh, hi, Mark.
Oh, hi, Mark. Non, alors ce n'est pas The Room de Tony Wiseau.
Quel dommage.
Ce n'est pas The Disaster Artist.
Ah non, ça, on a oublié, on s'en fout.
Oui. Pourtant, vu la performance de Kevin Janssens, des fois, on peut se demander s'il n'y a pas une filiation avec Tommy Wiseau.
Et avec James Franco à la fois.
Oui.
Avec Kevin Janssens et Olga Kurylenko, un couple qui aménage dans une maison à la campagne et qui découvre une pièce cachée au fond de la maison qui a le pouvoir d'exaucer tous les souhaits, d'apporter tout ce que l'on souhaite. Cela ne va-t-il pas monter à la tête de nos personnages? Ouh, mystère. Bon alors, la bande-annonce spoil, Olga Kurylenko, enfin la femme du couple va demander un enfant. Voilà. C'est pas moi qui spoil, c'est la bande-annonce.
Parce qu'on te l'a, on peut spoiler tout le film, hein.
Christian Volkmann, c'est qui avait déjà fait un long métrage d'animation avant ça, et pas mal de clips, semble-t-il. Est-ce que vous avez eu envie de sortir de votre chambre? Est-ce que vous avez été fasciné? Est-ce qu'il a répondu à vos souhaits?
Ah, j'ai très envie de sortir de ma chambre, moi. Pas parce que comme ça, je regardais plus.
Merci, Thierry.
bon, je vais être la dissidente, alors.
Il y a ça à l'air d'avoir apprécié.
On commence par quoi?
Ben, Thierry, vas-y, commencez.
Non, j'ai pas trouvé ça non plus affreux. Pendant, je dirais, les premières 35 minutes. Après, ça devenait vraiment insupportable. En fait, à partir du moment où t'as capté tout le concept du truc, ça perd tellement d'enjeu, c'est dommage. Et puis, ça se veut, je trouve, très critique sociétaire, mais ça perd tellement son sujet. Ça me fait penser à Vivarium,
oui,
en moins
beaucoup,
bon. Hein. Et déjà, même si j'imagine que j'étais sorti assez content d'Ivarium, plus j'y repense, je me dis que c'était pas non plus fou, quoi. Et là, c'est encore moins bien. Et ouais, voilà, bon, bah, de toute façon, c'est forcément le couple qui se déchire par rapport à l'enfant, parce que la pression sociétaire dit que tu dois avoir un enfant, et du coup, il faut ressembler au couple modèle, et si, et ça, et si, et ça, et quelles sont les choses à sacrifier. Oh, je sais pas, ça m'a saoulé, parce que ça se cache derrière de la SF facile pour juste faire un portrait sociétaire, mais qui est déjà éculé, en fait, et qui est déjà légèrement dépassé, je trouve. Et en plus de ça, là je parle juste du fond, hein, parce que la forme,
oui,
ça a beaucoup de charme par moment. Quand ils font des training montage, quand ils font des trucs. Mais alors, putain, le reste du temps, ça patauge. Et en plus, comme le disait Ellie tout à l'heure, Kevin Janssens, quoi.
La révélation de ces deux dernières années, hein, quand même. Hein, qui joue dans des trucs comme L'État sauvage, et ça, et sûrement un paquet d'autres merdes qu'on j'ai oublié le nom, mais... Et il joue dans Revenge, il surjouait, mais le film était pas mal, je trouve.
Ouais, Revenge, c'est cool.
Mais parce qu'on le voit 2 minutes et qu'il se fait taper.
Yassa, vas-tu défendre ce film?
Bah, un petit peu quand même. Mm-hmm. Je vais commencer par dire que je l'ai trouvé meilleur que Vivarium.
Ah ouais, voilà. Quand même, carrément.
Ouais.
Ah ouais,
bah,
j'attends de voir pourquoi.
Bah écoute, j'ai été dans le film du début à la fin. Je me suis pas ennuyée, vraiment. Le concept est intéressant et ils en font quelque chose de pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire vu les bandes annonces et les trucs comme ça, je m'attendais à quelque chose de pire. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même... je me suis reconnue dans les personnages au tout début, où vraiment tout le monde perd la tête. C'est-à-dire que je pense que tout le monde perdrait la tête un petit peu en découvrant ce genre de choses. T'as une chambre qui fait apparaître absolument ce que tu veux, c'est génial, tu vois. Et puis, t'as un petit retournement de situation. Je sais pas si je peux le dire, donc spoiler, Thomas, tu mettrais un spoiler. On va être un spoiler.
Les bandes annonces. Alors, je vais vous dire un truc. Au début, je voulais vous dire attention, l'équipe, on ne spoile pas. Et en fait, j'ai vu les bandes annonces pour l'émission. Et en fait, les bandes annonces balancent tout. Et même les synopsis des films, ouais, balancent tout. Donc finalement.
Bon, c'est un peu dommage ça. C'est chiant. Bref. Du coup, en fait, on se rend compte que rien ne peut survivre au-delà de la périphérie de la maison. Enfin, dès qu'on sort de la maison, tout se transforme en poussière.
Ah merde, ça, je crois que ça n'était pas spoilé dans le bandeau.
Ah ben, bon ben.
Bon bref.
Oui. Voilà. Non mais moi, donc dans le spoil, je voudrais juste dire que le mec, de tous les tableaux qu'il a récupérés, parce que le mec est un artiste, donc il demande des tableaux, et il détruit le putain d'autoportrait de Van Gogh, et
c'est
je
ça.
Vous jure que j'ai hurlé. J'ai eu mal. J'étais pas bien.
En fait, on s'en tape.
J'étais pas bien.
Mais le truc, c'est qu'on s'en tape autant de minutes, c'est parce qu'il est blasé. Mais comme c'est des trucs qui n'existent pas, il peut en re-souhaiter un autre, il peut le souhaiter
non,
en double.
Mais je sais. Bah, justement, je sais pas. Est-ce que moi, en plus, c'est ça qui m'intrigue un petit peu, c'est que est-ce que ce sont des choses qui disparaissent d'un. Qui sont réels, donc c'est le réel autoportrait de Van Gogh qui a disparu du musée,
non.
Tu vois.
Non, c'est des fakes, à un moment il y a un double...
Ouais, mais il dit par contre que c'est un original, il dit que c'est un vrai...
C'est que du fake, en fait, c'est des trucs qui, une fois que ça sort, c'est des illusions, quoi.
Ouais,
mais à un moment, la première fois qu'elle lui demande, Olga Kurylenko, il lui dit un truc, genre c'est un vrai, et je sais plus si c'est le Van Gogh ou qu'il a ou un autre tableau, et il dit c'est un vrai,
c'est...
un truc comme ça.
Donc,
oui, non, mais parce que la reproduction est parfaite, si tu veux.
Ouais, mais du coup, c'est quand même bien, après, oui... Si c'est
oui,
le seul point de débat qu'on a sur le film.
Si tu veux, s'il arrive à recréer un gamin, il peut recréer un Van Gogh, quoi.
Ah oui, non, mais c'est bien
non,
sûr.
Non, mais voilà, quand le gamin arrive, je me dis, est-ce que c'est pas un gamin qui a disparu d'une maternité et
Alors, ça aurait été intéressant, tu vois, ce genre
ouais,
de truc.
C'est ça.
Exploité, bien sûr, hein, mais
ça aurait
été intéressant.
Ouais. En vrai, ça me faisait penser un peu au film Jumper avec Hayden Christensen qui est sorti il y a 12 ans.
Tu pourrais dire Samuel L. Jackson, pourquoi tu dis Hayden Christensen?
C'est le personnage principal.
C'est le personnage principal.
Ouais. Non, c'est pas vrai.
Bon, personnage principal est un grand mot, mais ça m'a fait penser à ça dans ce délire, parce que au début, moi aussi, je pensais que c'était un truc un peu comme ça de la téléportation d'objets, et je trouve ça beaucoup plus cool. Mais en fait, bah non.
Et en fait, non.
Oui, mais même sans ça, franchement, je trouve que il y a pas mal de suspense. On se demande un petit peu où ça va partir. C'est pas grandiloquent non plus, hein, mais j'ai bien aimé le déroulement de l'histoire, sauf à un moment donné où il se passe quelque chose d'absolument horrible, mais de
pire
terrible,
que le Van Gogh,
qui n'a rien à voir avec les œuvres d'art. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Littéralement, ça m'a un petit peu sorti du film. Et j'étais là, mais pourquoi, du coup ? Pourquoi on fait ça ?
Il y a ça juste pour être sûr. Est-ce que le moment où t'es sorti du film, c'est quand Freud y est rentré ?
Voilà.
Ok, on parle bien de la même chose.
Ouais. Oui, oui, absolument.
Ah oui, ok. Ah oui, oui, oui.
Absolument.
Oui.
Alors ça, après, pour le coup, moi, ça m'étonnait absolument pas. Et le problème, c'est que tu vois, alors, je pensais pas que
ça n'a aucun sens, hein, par contre,
là.
Moi, je trouve. Mais, bon.
Mais oui,
contre...
c'est allé loin, c'est allé. Non, mais on comprend qu'il y a un problème,
c'est pas,
tu vois.
C'est pas allé loin, ça devait. Alors, en fait, le film, je pense qu'il devait aller jusque là, sans forcément le montrer, puisque c'est exactement son sujet. Et le gros problème, en fait, moi, ce qui m'a retiré tout suspense, en fait, c'est à partir du moment, et ça, on te le dit très rapidement. À partir du moment où on te dit que c'est aussi, enfin, quand ils emménagent dans la maison, on leur dit c'est une maison où il y a eu un meurtre et c'est pour ça que vous l'avez eu à pas cher. Ils découvrent le truc, ils se renseignent, ils se rendent compte que le gars qui a buté les personnes qui étaient dans la maison avant eux est enfermé dans un asile, oui, enfin, c'est un asile, hein, pas très loin de là. En fait, à partir de là, j'ai fait, ok, donc en fait, on a déjà toutes, et j'avais déjà toutes les réponses. J'avais déjà vraiment, chaque fois qu'il lui posait une question, je fais, ok, c'est celui-là, voilà exactement ce qui va se passer parce qu'on parle de Freud, en fait. Et du coup, j'étais là, putain, oh non, ça va partir là-dessus, c'est pas terrible. Et du coup, j'avais plus aucune raison de regarder parce que j'avais plus de raison de penser qu'il allait se passer quelque chose qui allait me surprendre, en fait.
Non, mais dès l'instant où on parle du gars qui est interné, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu le vois venir gros comme une maison, c'est clair. Mais je pensais pas qu'on assisterait à ça.
On voit pas grand-chose non plus. Hein. Bon, ça reste calme. Hein.
Excuse-moi. Non,
c'est pas l'argent de rire, hein, quand même.
Pas, c'est suffisamment suggestif pour qu'on sache de toute façon.
Oui,
ce que tu vois,
oui, bien
ce que tu
sûr.
Vois pas, on
mais
sait
bon.
Que ça se passe, donc c'est déjà assez.
Ouais.
Moi, je sais pas, c'est pas.
Et le résultat de ça, quoi, aussi derrière, quoi. T'es là, genre, non, juste non, vraiment non, non.
Alors ça, par contre, non, parce que ça, on n'est pas sûr, par contre. Parce que, non, parce que, enfin, il y a un autre élément juste avant qui peut contrebalancer
ça. C'est ce qui est oui. Grandement suggéré, par contre.
Parce que là, franchement, je sais même pas si ce qui se passe va au bout. Hein. C'est-à-dire littéralement 5 secondes.
Oui.
Donc bon.
Oui, mais étant donné que ce qui se passe se passe genre 10 minutes avant, moi dans ma tête c'est frais, tu vois. Donc moi, j'ai fait le lien immédiatement.
Je vais être honnête avec vous, j'ai vu le film là cet après-midi. Même moi qui l'ai vu, je sais pas de quoi vous parlez. Alors que j'imagine les gens qui ont pas vu le film.
Ouais, ouais.
Ok.
Mais parce que, oui, mais en vrai, on fout. Moi, j'en ai rien à foutre. En vrai, je suis prêt à tout spoiler.
Mais parce que il y a une histoire. Donc, c'est le gamin qui prend l'apparence du père, c'est ça ?
Alors, déjà, ça n'a aucun sens.
Ouais, on est d'accord, ça n'a aucun sens.
Il est censé vieillir, il va pas ressembler à son putain de père.
Il a créé tout un extérieur, tout
mais c'est,
pour pouvoir aucun... sortir, donc il a pris l'apparence de son père parce qu'il était jaloux.
Mais tu peux demander la création, mais tu peux pas demander à ressembler, c'est pas matériel.
C'est ça.
Tu peux demander à créer une maison, mais tu peux pas demander à créer un loup.
Sur ses règles au fur et à mesure de la partie.
C'est débile. À ce moment-là, je me suis dit, enfin, leader peut être intéressante, mais dans le concept, ça marche pas, et en plus, c'est ridicule, parce que, du coup, Kevin Johnson se part en roue libre absolue, là, c'est la fête du slip dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, il oublie le mot acting et il chie dessus, hein, c'est n'importe quoi.
Si t'étais pas obligé de dire que c'est la fête du slip, parce que là, c'est vraiment très équivoque.
Non, mais c'est dommage. Bon, après, moi, de base, le concept, je le trouve pas, incroyable, c'est rigolo 5 minutes, mais voilà, quoi. Même la scène d'ailleurs qui présente le training montage un peu comme tu disais Thierry, elle est sympa, bon, parce qu'il met le beau Danube bleu en fond, donc à partir de ce moment-là tout est sympa, je pense, mais elle dure beaucoup trop longtemps. Mais ouais. c'est le truc, c'est qu'en fait il y a un enjeu à partir de là qui est évoqué, donc une sorte de critique sociétaire, le consumérisme, etc., et c'est évacué mais d'une force et d'une vitesse, c'est stratosphérique, parce que c'est n'est plus jamais réévoqué après. Enfin, ils en parlent 5 minutes et après on s'en bat les couilles, on parle du gosse. Et là, c'est Vivarium qui commence, quoi. Sauf que moi, pour le coup, Vivarium, la mise en scène était au moins un peu intéressante, je trouve. Alors que là, c'est assez plat. Ça vole pas très très haut. Il y a des incohérences de base, je m'en fiche. Mais là, c'est une incohérence au sein même du concept du film. Donc, à un moment, y a un problème.
Ce qui est très lourd, c'est que ça apporte aussi, c'est qu'il y a un moment. Alors, toujours dans ce fameux asile où moi, j'en avais déjà plus rien à faire, où il apporte un truc et je me disais, si ça part là-dedans, bon, ça y part, mais pas assez bien. Ça peut être intéressant, c'est quand justement il lui dit que la manière pour lui d'être sorti de ce truc, c'est que en gros il faut, la manière pour l'homme d'avoir réussi à s'émanciper, c'est d'avoir tué Dieu.
Et quand il
dit du coup
Nietzsche.
On parle du rapport au créateur et tout ça. Et là j'étais là, putain, ça peut être chouette. Alors, le film part en réalité là-dessus, mais il y part mal.
Je me dis, mais quelle est l'allégorie de ça, en fait? Et en fait, non, c'est juste un Oedipe à la con, quoi.
Oui, voilà, c'est ce qu'au final, d'un coup, il se prend pour Ridley Scott avec Prometheus et Covenant, sauf que, déjà, il a pas la maîtrise visuelle de Prometheus.
Ça m'a fait penser à Mother, en moins ambitieux.
J'ai pas vu, mais ouais, mais je, de ce que je vois, de ce que je connais, ouais, ça a l'air un peu ça. Et c'est en même temps, c'est un truc qui est un peu à la, mode.
Mother, plus ou moins, après, mais
ouais, non,
ce qui est paradoxal parce que voilà, il part sur Nietzsche puis il finit avec Freud. C'est chouette.
Mais non, mais en plus c'est dommage qu'il y ait des petites idées sympathiques. Bah, je trouve que, enfin, c'est pas vraiment un twist, mais la manière qu'a le gamin de détourner sa propre contrainte d'interdiction de sortie est très cool.
Ouais.
Franchement, quand on apprend qu'il a, enfin, quand on voit qu'il a créé, qu'il a recréé l'univers extérieur dans la scène, mais c'est génial comme idée. Pense que c'est pas assez exploité, c'est pareil. Même à un moment, franchement, bon, c'est un micro-spoil.
Ils avaient le budget que pour un décor. Hein.
Oui, là, ça se voit. Mais il y a un micro, je vais dire un micro-spoil, mais c'est qu'à un moment, ils disent, ils pourraient demander un dragon et il pourrait apparaître. Et moi, je suis en mode, limite,
mais
à ce moment-là, mais faites-le, en fait. À ce moment-là, mais... Enfin, non, mais exploiter, enfin, quitte à y aller dans le YOLO, on s'en bat les couilles.
Non, mais, mais du coup, ça pose la question de, est-ce que tu peux demander quelque chose qui n'existe pas?
Visiblement, oui, tu peux demander à ressembler à ton père.
Oui, au bout d'un moment, au moment où on dit que les règles, on s'en fout, tu sais.
Bah, en fait, moi, à ce moment-là, quand j'ai compris ça et qu'ils essaient de fuir vers la fin dans cette espèce de deuxième maison, je me suis dit, mais là, c'est le moment parfait pour qu'il y ait un putain de dragon qui sorte. Le gamin, d'ailleurs, autre truc que je trouve bizarre, c'est qu'ils pourraient limite redemander quelque chose, théoriquement, ils sont encore dans la chambre. Enfin, tu vois, c'est. Ils sont juste à côté de la chambre, ils pourraient demander plein de choses, mais.
Mais,
bon.
c'est ce qu'ils font quand ils s'enfuient, justement.
Oui, mais enfin, c'est pas super créatif non plus, enfin. Ah, il y a le truc où ils font référence à Jérôme Bosch, là, avec les escaliers, c'est plutôt cool, mais. Il y a quelques trucs visuels pas mal, en vrai, hein. Et globalement, je sais pas, c'est un empilement d'idées qui se transforment en étrons.
Moi, j'ai eu un début d'espoir à un moment donné quand le mari commence à peindre la structure de, je vais appeler ça le générateur, je sais pas, du générateur. Et je me suis dit, peut-être, tiens, on va avoir l'explication de comment ça marche. Mais bon.
Alors, franchement.
C'est un artiste. Bah, apparemment, les artistes, ils comprennent rien aux câbles électriques, donc donc voilà.
Ça doit être ça.
Mais franchement, ça fait très Vivarium, même tout ça. Enfin, tout, c'est littéralement la même structure narrative avec le père qui commence à s'enfermer dans ce qu'il sait faire. Dans Vivarium, le père qui se met à piocher parce que c'est un mec qui s'occupe de jardin. Là, le mec qui se met à faire une toile chelou parce qu'il sait faire que ça. Enfin, et du coup, c'est la mère qui s'occupe du gosse, une relation un peu plus intime qui se crée, etc. Enfin, c'est littéralement la même histoire, juste. C'est fait par un mec qui est sous codéine parce qu'il n'a pas d'idée, quoi, et avec sa caméra, et c'est triste parce que je pense que le concept, même si moi je ne suis pas fan de base, aurait pu être mille fois plus intéressant.
Ah, pour ça, oui, là je suis d'accord. Il y aurait eu de meilleures idées, absolument.
Ouais, enfin, en tout cas, 1h40, on aurait pu faire plus court, quoi.
Ah, bah là, c'est pareil. Oui. En fait, c'est un peu le même rush qu'on pourrait faire à Vivarium, le côté un peu épisode de la quatrième dimension rallongé. Bah, c'est un peu pareil, là. C'est un concept qui est bon sur une grosseur, une bonne heure. Bien exploité, avec un truc qui tient en trois actes de 20-20-20, comme ça. Mais là, si tu dis que tu t'es pas ennuyé, il y a ça, mais chapeau, hein.
Ah non, mais franchement, non, je...
Non, mais
j'ai mis l'idée.
Il y a ça tout à l'heure, quand on discutait, tu nous as dit que t'avais peur de pas avoir le temps de regarder Mister Rogers, et que du coup, t'avais dû le mater en légère accéléré pour pouvoir être dans les temps. En fait, The Room, tu l'as maté en x2, c'est pour ça. Du coup, dans ta tête, il a fait 45 minutes, c'est passé.
Bah, j'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais non.
Ah bah tu vois, t'aurais bien aimé, donc c'est que tu l'as trouvé trop long.
Non, pas du tout. Non, pour vous, je veux dire pour vous, mais non. Moi, j'ai apprécié.
Bon, là, on s'est un peu endormi, là, on était un peu enfermé, mais là, on va tout exploser. Là, il est temps de dynamiter un peu cette émission. Là, on va parler avec un film de bonhomme. Là.
Un bon tout ce que j'aime.
Qui sent la testostérone,
là, qui sent la sueur, là, qui sent le vestiaire. Comme
mon type de film préféré.
What is this place?
I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed at RST. We rebuild the most important assets in the US military. Soldiers like yourself. You're the first who we've successfully managed to bring back. But improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Holy shit.
Bloodshot de Dave Williams.
Son premier long, semble-t-il. D'après le comics Valiant, Et le comics Bloodshot aussi, c'est un Valiant Comics, c'est une franchise Valiant Comics. Si ça marche au box-office, bon là avec le Covid c'est un peu compliqué, mais bon, il est prévu que ce soit une franchise de 5 films. Donc si ça marche pas, on pourra dire
c'est
un effet positif du Covid.
C'est vrai ?
Ah ouais, c'était prévu pour faire une franchise de 5 films, si. Ouais.
Vraiment, j'étais pas au courant, non.
Et même paraît-il que, alors des anecdotes que j'ai lues, je sais pas, parce que sur ma version ça y était pas, mais normalement à la fin il y avait Ken Watanabe dans un personnage qui devait annoncer un autre film.
Oh l'angoisse.
En pause générique, tu sais.
Pour combien de Riddick Vin Diesel est-il prêt à faire des bloodshots, quoi ?
Putain de merde.
Avec donc Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison, alias Bloodshot. Et Guy Pearce qui joue, bah, comme d'habitude, le méchant.
Mais c'est vrai.
J'étais tellement content de voir Guy Pearce et après j'étais tellement triste de voir Guy Pearce. Quoi.
Voilà, on a aussi Eiza Gonzalez qui joue Bonas numéro 2 et Lymorne Morris qui joue le mec sympa qui fait des blagues. Et le
blanc sympa qui fait normal, des blagues. J'aurais jamais accepté, je t'aurais dit Thomas, s'il te plaît, t'appelles pas un personnage Bonas. Mais là, je peux rien dire.
Son personnage son personnage s'appelle KT en deux lettres. Voilà.
Son personnage est éclaté au sol, hein, parce qu'il pue la merde en écriture. Hein.
Oh non.
Si vous voulez. Non. Sur celui-là, j'aimerais bien vous dire, on ne spoile pas, mais quand bien même on voudrait spoiler, c'est-à-dire que autant dans le film précédent, il y a des éléments qu'on peut peut-être dire, il y a un spoil. Autant là. Il y a tellement de poncifs, il y a tellement de trucs que c'est pas possible de spoiler ce film. Même la bande-annonce, on n'a rien à foutre. C'est l'histoire d'un super soldat, d'un pro des Marines, tout ce que vous voulez. Il voit sa femme se faire buter et il se fait buter par les méchants qui ont buté sa femme. Une entreprise super technologique de la mort lui injecte des milliards de nanomachines, ce que vous voulez. Enfin, insérez le nom de technologie que vous voulez. C'est des nanomachines qui le réparent instantanément et qui en plus le connectent parce que ce sont des microprocesseurs et tout ça. Donc ça fait un mec super cheaté, mais qui est motivé par tuer le mec qui a buté sa femme. Donc ça devient une machine à tuer, et donc une fois qu'il retrouve la mémoire, il va tout faire pour aller buter ce mec. Et une fois qu'il a fait ça, il est fatigué, parce que les nanomachines, ça bouffe de l'énergie, et hop, il se rendort, et puis hop, il repère la mémoire, et on le reprogramme, et il revoit sa femme se faire buter par quelqu'un d'autre, et en fait on s'aperçoit que ses souvenirs ont été modifiés, parce que c'est très original aussi.
Oh là là.
Voilà, et donc Guy Pearce, qui était son gentil patron du labo, fait déjà, quand tu vois Guy Pearce en patron d'un laboratoire d'armement militaire avec un bras de fer, il n'y a pas de suspense, tu sais que c'est le méchant.
on est plus très dupes à force, hein. Ça fait quand même 10 ans qu'ils font le même coup film après film. Hein.
Autant Willem Dafoe dans Aquaman, je soupçonnais que c'était un méchant, mais finalement ça ne l'était pas. Autant là, Guy Pearce.
Non, mais
zéro suspense,
quoi. Si vous adorez ce genre de truc, donc, il y a des scènes de fusils, genre Call of Duty au départ.
Il y a de la muscu,
il y a des shots. Le mec, il boit des shots et tout, il boit de la tequila. Il fait de la muscu. Il y a des bonasses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, quoi. Il y a deux filles, hein. Donc, le test de Bechdel, déjà, on fasse le carré derrière l'oreille. Et le premier personnage féminin, c'est quand même la femme du héros. Donc, c'est-à-dire que, il rentre de mission, il passe des moments avec elle et tout, il passe son week-end, et vous verrez quand même sa petite culotte avant d'entendre sa voix.
Oui, c'est exactement la réflexion que je me suis faite.
C'est comme ça, si jamais t'es déçu par la voix, tu peux te dire oh, « c'est pas grave, je vais pas lucher ». Parce que bon, je veux dire, c'est que des gens qui veulent ça qui regardent ce genre de film.
Ah mais tellement, c'est tellement ciblé.
Non mais Thierry, tu comprends pas, c'est que moi, Vin Diesel, tu vois, j'aime bien le défendre, tu vois, que ce soit Fast and Furious, que ce soit Riddick ou Triple X, ou j'aime bien ce genre de film, tu vois. Et là... j'ai zéro argument pour le défendre. Je ne trouve rien de potable dans ce film, et ça me fait mal.
Même les arguments qui ont été utilisés pour 68 Kills, là, ils sont pas utilisables pour celui-là.
Mais
en fait, c'est pire, c'est que, en fait,
ah, mais même pas, parce que là,
on dit que c'est fait pour plaire aux bofs et tout ça, mais même pas. Je veux dire, je pense qu'à ce moment-là, même les gars qui peuvent kiffer les Fast and Furious ou les trucs des fois un peu décérébrés, mais qui offrent au moins un spectacle et qui te disent juste, te prends pas la tête chaton, tu vas quand même t'éclater parce qu'on va te balancer de la testo à plein nez. Même là, le spectacle, il est pas offert. Y a rien. Donc du coup, à partir de quel moment est-ce que ça va plaire même à ceux qui ont le moins d'exigences possible et qui ont juste envie de se détendre ?
Mais c'est juste qu'il y a zéro enjeu, en fait. Il y a aucun enjeu du début à la fin. Même les scènes où il arrive, tu vois, en étant badass, je rigolais. Je ressens, d'habitude, je vois Vin Diesel dans certaines scènes, je suis là, ah ouais, putain, allez, là, ils vont morfler, les gars. Tu vois, je sais qu'il va y avoir de la baston et ça va être chouette. Et là, J'étais, mais c'était, il y avait rien. Je sais pas, je sais pas quel mot mettre là-dessus, mais il y avait rien. Il y avait absolument rien. C'était vide de non, mais tout.
C'est une capsule vide. Le film.
Même la musique, elle se fait chier.
Il y a une figure qui revient très souvent, donc c'est la teinte rouge, la lumière rouge qui revient très très souvent. Et les fumigènes. C'est-à-dire qu'il y a un budget fumigène dans ce film avec lumière rouge. Sais pas, il y avait un thème, ils ont eu un prix.
Ça fait pas des spectateurs de foot, c'est pour ça. C'est...
Ah, c'est ça.
C'est les ultras d'un club de beauf qui a fourni les props et les accessoires. Et... D'où le fait que ça marche. Hein.
C'est sponsorisé par Vodka Connecting People et la PMU.
Non, mais... En fait, c'est ce film, c'est un peu le bal des tocards au royaume des incapables. C'est
bon.
Waouh.
On vient de renommer le film.
Je me suis énervé sur 68 kills il y a quelques semaines, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec le côté on pose son cerveau, etc. Mais ça m'arrive d'aimer des conneries, bien sûr, comme tout le monde. Mais là, en fait, ce qui m'a énervé, c'est que, j'ai fait des petites notes des fois sur les films après coup. Et là, j'ai mis un seul mot pour Bloodshot, c'est pathétique. Parce que, en fait, ce que je trouve horrible, c'est que, à la limite, si le film s'assumait pleinement, je suis même pas spécialement énervé par le film, je suis juste vraiment navré. Le film s'assume même pas spécialement parce qu'il y a un moment où le film ose, mais a le culot, l'audace, si j'ose, de dire, oh là, mais ça, c'est un peu cliché, faut faire attention. Alors, le film ose se moquer des clichés, alors que c'est peut-être la plus grosse accumulation de clichés possible, en fait. Jusqu'à au tout dernier plan. Et je me suis dit, mais à quel moment, qui est le bougre qui a pu pondre un tel script, qui a osé se dire, on va faire un scénario où on se moque des clichés. Comme ça, mais sans avoir conscience que c'est presque pire ce qu'il fait, en fait.
Alors, le bougre en question, celui qui a réalisé, donc, Bloodshot, en fait, sa spécialité, c'est surtout les effets visuels. C'est pour ça qu'on l'a pris, parce que, en fait, bon, entre les poncifs de scénario, il y a des scènes d'action.
C'est presque une mauvaise blague, quand même.
Mais c'est pour ça qu'il a été utilisé. Mais il était dans les effets visuels, mais surtout pour des jeux vidéo, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un côté Call of Duty par moment.
Mais ça se voit.
Ouais, ça fait penser énormément à ça. Même s'il a pas spécialement bossé sur Call of Duty, si je me souviens bien, mais je crois qu'il a bossé plus sur des Star Wars, ce genre de trucs. Je crois qu'il a bossé sur Avengers Ultron, aussi, je crois.
Non, mais moi, j'ai pris plus de plaisir, par exemple, à regarder Kingsglaive, enfin, le Final Fantasy Kingsglaive que Bloodshot, quoi. Et je suis désolée, mais c'est pas parce que le gars, il sait faire des cinématiques de jeux vidéo qu'il va savoir les retranscrire en film, quoi.
Le problème, c'est que là, il y a littéralement des cinématiques dans le film.
Je vais quand même défendre le film. Je trouve que la doublure numérique de Vin Diesel dans les scènes d'action qu'on voit bien en gros plan joue mieux que lui. Elle est plus réaliste que lui.
Alors, c'est vrai. Par contre, ils ont chié.
On dirait qu'elle a été modélisée sur une PlayStation 3, par contre.
Ils ont chié sur l'autre là avec ses bras, le personnage de Sam Yuen, quand ils sont dans la cage d'ascenseur, etc. Je suis désolée, mais on voit clairement les CGI. C'est horrible. À chaque fois, je criais de dégoût tellement c'était moche.
Alors. Justement, sur les CGI, parlons-en. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions vous avez vu le film. Moi, ça m'a fait le même effet qu'avec Gemini Man. Donc, Gemini Man, qui était film plus combien de FPS, qui était la révolution.
En 120 ou 60, selon les salles.
Voilà. Ben là, c'est un film qui a été tourné en 8K avec des conditions, des hautes résolutions, si vous voulez. Et ben là, c'est un peu le quoi. Et comme moi, mon écran, il est pas méga résolution de la mort, si vous voulez. Ça m'a fait le même effet que les bandes annonces de Gemini Man. Donc, c'était dégueulasse.
Ah oui, les bandes annonces de Gemini Man.
Conditions, ça se regarde, parce que ça a été fait pour. Autant dans des écrans de moins de qualité, ben, en fait, ça pêche énormément. Quoi.
Tu vois, on parle des conditions, mais justement, là, je pense qu'il est temps, ça a fait beaucoup rire Ellie quand je lui ai dit, je crois que je te l'ai dit aussi. Mais là, il faut le dire. Parce que, tu vois, la semaine dernière, par exemple, quand on parlait d'Hotbuster, je crachais sur Velocipastor, en disant que c'était le niveau zéro du cinéma et que j'étais très content d'avoir vu ça. Eh ben, j'ai passé un moment bien plus mémorable devant Velocipastor que devant ça, pour la simple et bonne raison que Bloodshot, je peux vous dire que je pense l'avoir vu il y a 3 jours. Je ne me souviens pas de la moindre seconde de ce film, à part d'un ressenti désagréable. Je me souviens, le seul truc dont je me souviens pendant la séance, c'est que mon coloc est arrivé, ça faisait donc 1h35, 1h40 que le film était commencé, donc on était à la fin. Hein, et il m'a regardé, il m'a fait « Alors, ça donne quoi ?» Et là, je l'ai regardé, j'ai fait « Je sais pas. » Je n'avais aucun souvenir de cette 1h35 qui venait de s'écouler. Je suis resté d'une passivité totale devant ce film. Ouais, non, mais là, parce que quand il est venu me voir, ça faisait 1h35. Donc au moment où il m'a posé la question, déjà, là, j'étais là en mode « Et le quart d'heure d'après, je l'ai effacé de ma mémoire. » Je suis sorti de là en me disant « J'ai vu des lumières rouges, j'ai vu Vin Diesel. » Je sais pas trop ce que j'ai vu. Je m'en rappelle pas.
C'est un miroir, en fait, Thierry.
Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Est-ce qu'il y avait Guy Pearce? Est-ce qu'il n'y avait pas Guy Pearce? Vraiment, là, vous me rappelez des trucs et j'en rigole et je sais que c'était mauvais, hein. Mais vraiment, je suis sorti de là en me disant, tiens, et si je regardais un film aujourd'hui, j'en ai pas regardé encore. C'est...
Il y a aussi un truc.
C'est triste.
En fait, vous parliez tout à l'heure de cinématiques de jeux vidéo, mais en fait, le problème, c'est que le film en a plusieurs, en fait, dedans. C'est problématique, quand même. On dirait vraiment, il y a un moment, c'est un jeu vidéo. Enfin, tout le combat final, je peux pas y croire une seule milliseconde. Enfin, c'est impossible, on est d'accord. Enfin, toute la séquence dans l'ascenseur, en plus, il essaie de faire un plan séquence à la Sam Raimi, genre en mode Spider-Man, parce qu'il y a un mec qui a des bras, genre à la Octopus. Déjà, j'ai peut-être porté des lunettes maintenant, parce que je pense que j'ai perdu trop de points dans mes yeux, là, c'est compliqué. Mais, en fait, tout a l'air vraiment, mais, je sais pas, les personnages ont l'air élastiques, mais ça se voit que c'est fake. Et c'est presque terrifiant de se dire que ils ont pris un mec qui fait des cinématiques, qui est expert en trucs de jeux vidéo, et qui, il a fait ça, en fait. Il a pas compris qu'il travaillait sur un médium différent. On dirait, c'est un problème, à un moment, tu t'embauches pas un mec parce qu'il est... Enfin, je sais pas, c'est comme si on prenait un passant dans la rue, on lui disait, tiens, réalise Bloodshot 2. Parce que
pourquoi, c'est ce qui va se passer, quoi.
Et le mec, il va demander pourquoi, on va lui dire, parce que tu fais des très bonnes pâtes au pesto. Et c'est un moment où il faut être réaliste. Je sais même pas comment un tel film a pu être conçu. Enfin,
c'est une licence de comics. Sony se lance dans la bagarre, voilà.
Mais tu vois, c'est triste. Enfin, Sony, je me demande qui sont les mecs qui gèrent Sony, parce que on dirait qu'ils ont jamais réussi à comprendre comment, lancer une franchise. Ils ont foiré avec The Amazing Spider-Man. Bon, j'ai pas vu les films. Peut-être que c'est pas si mal que ça. Hein. Mais enfin, tu vois, ça s'est planté au bout de deux films. Là, ils ont l'occasion ils vont en lancer une avec les Spider-Man en animé, tu vois. J'étais en train de me dire, bon, peut-être qu'ils ont enfin compris comment faire un truc à peu près potable, un truc organisé bien. Et là, tu me dis qu'ils veulent faire une franchise à partir de ça. Mais alors, bon, même si je pense que ça va être difficile de faire pire que le premier opus, je veux pas trop m'avancer parce que il y a moyen qu'ils y arrivent quand même, mais ça me fait un peu peur. Mais je comprends même pas, en fait. Enfin, à quel moment, économiquement, il y a un raisonnement, où les mecs se sont dit, tiens, c'est viable, tu vois. Ouais, c'est une bonne réaction.
Ouais.
C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu Dave Wilson apparaître à la fin, genre réalisé par, j'ai soufflé aussi.
Non, mais après, j'ai envie de dire, c'est du commercial purement. Et quand on se dit que des films comme Fast and Furious font énormément d'entrées, on se dit que, un film avec Vin Diesel et qui ne propose pas autre chose que de l'action avec un pseudo-scénar tiré de comics, bon. Le comics a succès, hein.
C'est ça, d'ailleurs. En fait, c'est qu'il y a un comics derrière, donc ça fait vraiment super-héros aussi.
C'est ça.
Mais tu vois, le truc, c'est qu'ils ils comprennent pas ces gens-là que dans Fast and Furious, bon, même si j'ai pas tout vu, etc., mais il y a quand même, enfin, il y a des réals qui sont pas choisis au pif, il y a quand même James Wan qui a fait un opus, enfin, il faut se renseigner, on dirait qu'ils se renseignent même pas sur comment faire, en fait.
Faire un film?
Ouais, c'est presque effrayant, on dirait qu'il y a une recette magique, comme ça, c'est comics, star à gros bras chauve. C'est bon, on va tout casser, littéralement. Sauf que non,
on a cassé des bras, hein, ouais. Là, quand même. Je sais pas compté le nombre de bras cassés qu'il y a eu dans le film.
Bah déjà l'équipe technique.
Voilà.
Ça fait beaucoup.
On est tellement vache avec ce film et il le mérite tellement, je vous jure. J'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, on n'est pas des méchants, hein. Mais quand c'est mérité.
Mais c'est jamais agréable de cracher sur un film, mais bon.
Non, mais je le mettrais, tu sais, dans ce film que tu regardes du coin de l'œil en déconnant avec quelqu'un à côté, tu vois.
Mais même pas,
franchement, même pas.
Je te promets, Thomas, même pas ça, quoi. Franchement, je n'infligerai à personne.
Je vais très amusé à chronométrer quand Babouliné se réveille, j'appelle comme ça, pardon.
Ou alors on fait des jeux à boire, hein.
Et il y a Guy Pearce qui lui fait son speech, et donc il y a KT, voilà. Non, pardon, j'oublie le prénom du personnage. Donc qui est derrière, qui suit, hein. elle ne sert absolument à rien, si ce n'est à exposer son haut moulant blanc pendant la scène.
Mais tu vois, Vin Diesel, regarde, on a cette image de Vin Diesel toujours.
Et tu chronomètres combien de temps avant de parler?
Regarde, dans les Fast and Furious ou dans les Triple X, on a l'habitude de voir Vin Diesel entouré de bombasses tout le temps, tu vois. Et pourtant, elles ont d'autres utilités, tu vois. Elles servent à quelque chose. Là, ça aurait dû marcher aussi, sauf que je sais pas pourquoi ça a pas marché, mais ça n'a pas marché. Je sais pas ce qui va pas dans ce film, mais je sais pas. Elle est.
Non, mais là, elle a quand même là dans l'équipe, dans l'équipe, ils ont tous été modifiés. Donc, Yanner, il est sniper et on lui a mis des yeux bioniques sur le torse. Yanner, il a marché sur une mine, on lui a remis des bras mécaniques. Et elle, elle a un problème respiratoire, donc on lui a fait un trou au niveau bah, de la gorge.
Du thorax.
Enfin, au niveau, ouais. Au-dessus de la poitrine de la gorge. Donc c'est vachement élégant. Voilà.
Et
notre tout est de grande classe. Tout est de grande classe. Donc,
franchement, tu vois, ça fait non, presque considérer 68 kills. Hein. Je trouve que, là, tu vois, le côté, quand tu disais oui, on peut le regarder dernier avec un pote, là, pour le coup, je suis pas d'accord, mais à la limite, 68 kills, oui, parce que même à la limite, tu peux te moquer des trucs qui vont pas dans le film parce que c'est un peu rigolo. Là, même pas. Enfin, vraiment, c'est juste un naufrage. Un naufrage qui dure longtemps.
Mais même l'aspect technologique, enfin des bras, enfin de la technologie avec laquelle ils ont été modifiés, je pense. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je pensais par exemple à G.I. Joe ou à Pacific Rim où t'as plein de trucs comme ça, des bras armés, des de la robotique, des trucs comme ça. Ça pète beaucoup plus que là tout est c'est épuré à tel point que en fait ça en devient même plus impressionnant quoi. On n'est plus impressionné par ce genre de choses. C'est dingue. Alors que ça serait cool, tu vois, les nanorobots. J'avais fait une petite remarque en commençant le film. Ça m'avait fait penser à la série Jake 2.0, où le gars se retrouve, en fait, avec des nanobots dans le corps. C'est exactement ça, quoi. C'était une série qui passait à la télé. Et là, voilà, on a eu exactement la même chose, quoi. Même les zooms sur les nanorobots qui font leur boulot, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est... Qui, en plus, n'a aucune logique. Parce que j'aimerais quand même revenir sur un truc, c'est que quand Vin Diesel se fait exploser la gueule, les robots flottent dans l'air comme ça et viennent reconstituer les couches de sa peau, ses os, etc. Et puis à un moment donné, ben, il se coupe la main et il verse du sang robotique, je ne sais pas ce que
oui,
c'est,
non, mais
dans un
film
verre.
Il ne respecte pas ses propres règles et à la fin. Donc il est censé avoir une limite quand même, tu vois. Mais parce qu'il n'y a pas de kryptonite dans cet univers-là, donc il fait un peu ce qu'il veut. Ou d'équivalent. Et donc, il passe le film à dire « Ah, t'es à la limite, tu vas pas y arriver. » Et il va jusqu'au bout. Et donc, il fait tout péter. Et donc, il est censé avoir plus d'énergie, quoi. Et donc, il se refait péter quand même. Il est relâ à la fin. Et tu... Ouais, ok.
C'est ce que j'ai appelé le petit moment Babylon AD. Ça m'a fait penser à ça.
Ah non.
Mais ça aussi, cette histoire de ça chauffe quand ça les arrange, bon.
Ce qui est bien, c'est que c'est un film devant lequel on pense à plein d'autres trucs, même pas forcément beaucoup mieux, hein. Mais juste là, on a l'impression que c'est un patchwork de plein de trucs, bons ou pas bons, mais version Wish. C'est terrible. Enfin, moi, tout le film, par exemple, enfin, pas déjà le film, tout le film, je pensais à genre X-Men Origins Wolverine sans le côté fun, mélangé au Truman Show. C'est terrible, mais tu vois, tu dis ça.
Le jury d'origine, c'était bien affreux. Je trouve que les effets spéciaux, les effets sont quand même mieux fichus que dans Wolverine Origin,
oui,
même à
époque comparable.
Oui, le film
a 12 ans, quoi. Enfin, le film a. Mais au moins, X-Men Origins Wolverine, c'est complètement con, mais au moins, je rigole devant. Il y a des trucs qui me font marrer. Là, juste non, en fait. Je sais pas,
Wolverine Origin, c'est quand même, il coupait à côté de son lavabo, quand même, et le lavabo tombait. Enfin, c'était.
Oui, il y avait des trucs qui avaient. Enfin, c'était débile. Mais, et puis même, il y a Will.i.am dans le film. Enfin, voilà, il y a toute une galerie de choses qui font qu'on peut un minimum s'amuser. Là, les personnages, il n'y a aucun qui se dénote, même Vin Diesel. Enfin, c'est random chauffe point exécute, quoi. C'est, voilà, il est là, puis il tape sur des murs et il est content. Je sais pas, ça finit, je suppose. Et du coup, non, parce que si le film marche, ils vont faire une suite. Ce qui dit qu'on sera peut-être amené un jour à parler de Bloodshot 2, le retour de la revanche. Avec Thierry en caméo, j'espère, quand même. Hein.
Revanche.
Imaginez, on découvre qu'il a un frère jumeau et c'est Thierry.
Mais en fait, il doit se battre contre Thierry. C'est que Thierry voit des mauvais films, mais il a des nanomachines qui remodèlent sa mémoire pour le préserver, en fait.
C'est pour ça que je me rappelle pas.
C'est ça.
Une chance incroyable. Hein. Franchement, je pense que je préfère voir n'importe quel film sur le confinement par Danny Boone que ça.
On a un scénar là. Thierry va voir des mauvais films, il se fait du mal parce que c'est vraiment des mauvais films. Du coup, les nanomachines le réparent et moi je lui efface la mémoire pour le renvoyer voir d'autres mauvais films. Je pense que là on a un beau scénar.
Et je peux arrêter d'être le bisu de tes films de merde.
Thierry, j'ai une vraie question. Est-ce que tu préfères, je sais pas, genre revoir un truc genre L'élève du Cobu 3 ou ça?
Non.
L'élève du Kobe 3, je m'en rappelle.
Ouais,
aussi honteux que ça puisse paraître, je me rappelle de la gêne qu'on a ressentie avec Gabin devant ce film.
Au moins, t'as senti quelque chose.
Moi, personnellement, le bof au fond de moi irait voir Bloodshot quand même. Voilà, faut assumer un peu sa part de bof. Voilà, j'ai ma part féminine d'un côté, ma part de bof de l'autre.
Ouais, bon. Ouais, je sais pas. Mais moi, je l'aime aussi forcément, mais elle m'attire même pas à voir ça. Tu vois. Franchement, j'aurais pas été le voir sans ça. Enfin, qu'il soit
même,
en salle.
Même
ou
cette
autre,
part quoi. De bof disait, oui, bon, là, quand même, c'est un peu.
Ouais, non, mais voilà, non, mais voilà, c'est forcément. Non, mais là, bien sûr. Là, c'est les potards sont même plus à fond. C'est du jamais vu. Hein.
Oh, quelle déception, franchement. Une daube.
Je pense que comme c'est un film à franchise où il doit y avoir des suites, il n'y a pas eu d'histoire directement avec la fille dont le nom se fait en deux lettres. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour ou de sexe.
Mais
on est
non, mais la fin déjà, on n'est pas loin. Hein. Franchement, j'ai cru qu'il allait rouler un gigapatin sur le fond du coucher de soleil, avec le coucher de soleil en fond. Hein. J'étais en mode, alors, on va sombrer absolument. Ça y est, c'est fini. Limite, j'aurais presque préféré. Ça aurait été vraiment aller jusqu'au bout. Enfin, tu te dis, bon, quitte à être un ramassis de clichés dégueulasse, autant y aller. Mais même pas.
Ah non, ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé qu'il se roule pas de pelle.
Mais c'est presque le problème.
C'était parfait pour moi.
C'est qu'en fait, le film se prend presque trop au sérieux, en fait.
Ah oui, il se prend carrément au sérieux.
C'est ça le problème.
J'ai quand même très mal pour ceux qui ont payé $20 pour voir ça.
je ris de dépit, c'est horrible.
Non, mais c'est vrai qu'après, pour voir ce genre de truc, je pense qu'il faut avoir une belle installation pour le voir dans des conditions qui valent à peu près le coup. Parce que le seul argument du film, si on peut dire qu'il y a un argument, c'est les scènes d'action qui sont censées être filmées en méga résolution de la mort. Mais si t'as pas le matos pour mater ça.
Mais Thomas, arrête. Franchement, si on était allé le voir au ciné, tu penses qu'on n'aurait pas chié dessus comme là maintenant? On aurait détesté tout autant.
Justement, ça aurait pris tout ton champ de vision en plus. Ça aurait été presque encore pire, tu vois.
La déception aurait été encore plus grande.
Ouais, puis en plus, bon, franchement, les scènes en haute résolution, enfin, tu lances un truc genre Red Dead Redemption 2, t'as des cinématiques qui sont encore plus belles et plus intéressantes à regarder, quoi. Même si c'est juste un mec qui dépèse un loup, tu vois. Donc, même le matos, je sais franchement pas si ça change grand chose, là. Pauvre babouliné.
Bon, j'espère. Grâce à ça, il fera un Reddick derrière. J'espère pour lui qu'il sera content de ce film et que nous aussi, j'espère aussi.
Il y a intérêt.
On a déjà été contents d'un Reddick. Ouais.
Donc, c'est une émission un peu spéciale là, sur les films qui ont annulé leur sortie en salle pour sortir directement en VOD. C'était le cas notamment de films comme Ford ou Pinocchio qui sont sortis sur Amazon. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé. Non, si on l'a précisé, Bloodshot et l'incroyable Mr. Roger sont sur Amazon. Alors, la justification pour les films européens, bon, pour Pinocchio et pour Ford, c'était que, j'avais voulu le préciser, c'est que comme ils ont déjà payé du budget com, et que s'ils reportaient la sortie, ils étaient obligés de ressortir du budget com, c'était pas forcément rentable, donc ils ont préféré vendre à vil prix, mais pas loin, à Amazon, pour amortir les pertes. Voilà, voilà. D'ailleurs, est-ce que vous aviez vu, vous aussi, d'autres films qui devaient sortir en salle et qui finalement sont sortis en ligne? Par exemple, Pinocchio, je sais que tu l'avais vu, Ellie.
Ouais, moi je l'ai vu, j'ai écrit un magnifique article sur le site On se fait un ciné, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent aller lire ça, et non, mais c'est intéressant, mais c'est un peu dommage, c'est une petite déception, mais pas non plus affreux, je trouve que le film est assez mignon, il y a un côté un petit peu bizarre qui a du charme, mais que, bah, ça manque de... Il manque un peu de fantaisie dans sa mise en scène, en global, pour vraiment nous emporter dans cette histoire qui est quand même si on l'a vu et revu, l'univers qu'il essaie de développer en fond aurait pu être encore plus percutant, je pense, que ce qu'il en fait au final. C'est un peu dommage. Mais sinon, ça va, c'est pas... Enfin, c'est un bon moment. Hein.
Ouais, c'est ça. On a une esthétique qui fait penser à Tale of Tales de Matteo Garrone, toujours, mais en plus enfant, parce que c'est Pinocchio, donc c'est quand même un conte pour enfants. Et puis, c'est un film pour enfants trop long, et comme c'est trop long pour les enfants et que c'est pour les enfants, ben c'est aussi trop long pour les adultes. Je trouve que ça aurait mérité d'être plus efficace, hein, plus ramassé. Enfin bon, un peu déçu. Pourtant, j'avais bien aimé Tale of Tales. Enfin voilà. Et aussi, pourquoi est-ce que je suis si sympa avec Babouliné? Parce que je l'ai pas tant souffert que ça. C'est que dans la même journée, j'ai vu Fort aussi.
Et du coup, aujourd'hui, c'est encore pire que ça.
En fait, c'est pas très très bon, quoi.
Surprise!
C'est le film de Mela Bedia qui joue une femme avec certaines.
Elle a des bourrelets, Thomas. Tu peux.
Oh,
elle a
grosses.
Des bourrelets.
Okay. Bon,
voilà. C'est pas
et
grave.
Donc, elle a du mal avec les mecs et du coup elle veut se lancer dans le pole dance et voilà. Et donc c'est un film sur sur les préjugés qu'on a et tout ça. Et ok, il y a un message sympa, le message est intéressant, mais ça n'a de comédie que la classification parce que c'est pas drôle en ce moment, quoi.
Mais il y a Valérie Le Mercier.
Oui, ben. Rose Bank et Valérie Lemercier, c'est la seule qui joue à peu près.
Moi j'aime bien quand il y a Valérie Lemercier.
Ouais, c'est un peu léger pour soutenir tout ça, quoi. Pour porter le film à bout de bras, c'est un peu léger. Moi je suis fan de Jonathan Cohen, hein, mais pareil, ça suffit pas. Hein.
Bah, porter des trucs à bout de bras, il en faut quand tu fais du pole dance.
Voilà.
Hein.
Et une fois que t'as vu ça, bon, bah, du coup tu relativises, quoi. Tu vois, bout de shot, tout ça. Monsieur Roger.
Tu remets tout en perspective.
Ah, c'est ça.
C'est bien.
Ça, je suis comme Mister Roger, je me dis que bon, finalement ça sert à rien d'avoir de la haine contre les films.
Il aura servi à quelque chose, ce film, c'est bien.
C'est une fin d'émission. Alors, on n'a pas vraiment de point commun par rapport à l'autre. Je m'aperçois que c'est la 11e émission quand même depuis la fermeture des cinémas. Mm. Et on a vu aussi dans les émissions précédentes beaucoup de plateformes. J'aimerais juste vous poser... Alors là, on n'aura pas de verdict sur la plateforme. Hein. C'est un peu... C'est pas, ça va être compliqué. Donc, au lieu d'avoir un verdict sur la plateforme, juste pour savoir, est-ce que vous avez gardé des abonnements à des plateformes?
Moi, j'ai gardé Outbuster pour l'instant.
Ouais.
Voilà. Et Prime, parce que voilà, c'est un paiement à l'année, donc c'est un peu malgré moi, mais voilà. Mmh. Sinon, les autres, il y en a que j'ai trouvé intéressantes, mais bon, j'ai un budget que je me dois de respecter, donc j'en ai envie, mais pas forcément pour tout de suite. Okay. Mais il y en a qui m'ont beaucoup intéressé, donc ouais.
Ellie, t'as gardé des plateformes dans celles qu'on a vues ou,
Oui, bah Mubi, qui d'ailleurs a lancé sa vidéothèque dans la semaine, et là, je peux vous dire, mes amis, c'est peut-être la plus grande chose qui soit arrivée ces deux derniers mois, car ils sont passés en mode Netflix, sauf que le catalogue Mubi, c'est une dinguerie, hein. Il y a le cinéma mondial à portée de main, c'est vraiment fou. Donc tous ceux qui sont abonnés à Mubi et qui n'étaient pas au courant, profitez, et s'il y en a que ça peut motiver à se réabonner à Mubi, vraiment foncez, il y a vraiment de tout, avec des rétrospectives... Là, en ce moment, en France, pour le catalogue français, il y a une rétrospective Werner Herzog, Krzysztof Kieslowski, il y a quelques films de David Lynch, il y a pas mal de choses, c'est vraiment, vraiment chouette. Et sinon, je suis toujours abonné à la Cinéthèque, donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, j'ai de me souvenir, mais non, je crois que c'est bon.
C'est les deux auxquels je voulais m'abonner, justement.
Ouais, bah ouais. Après, je pense que je vais, me mettre à Outbusters, enfin me remettre à Outbusters. Juste là, c'était un peu compliqué, mais voilà.
Viens.
C'est juste pour regarder des films avec Thierry et rigoler.
Ah, oui.
Voilà. Parce que j'aime bien passer des bons moments comme ça en regardant des trucs bizarres.
Viens, on est très bien. Non, bah, moi, ouais, alors, on n'en a pas parlé une seule fois, là, du coup, depuis le début de l'émission. Moi, j'ai gardé Outbusters. Ah, voilà. Mm-hmm. Comme si on l'avait pas assez dit. bon, j'ai toujours Netflix parce que je l'avais déjà par défaut et que y en a à la maison qui vont me péter des câbles si je l'enlève, même si je m'en fous. Mais oui, non, voilà, toujours la même surprise, hein, c'était la semaine dernière et c'est toujours autant. Voilà.
Ok.
Et j'espère sincèrement que le 7 octobre, les salles vont rouvrir parce qu'il faut quand même préciser que le 7 octobre, ce sera la plus belle semaine de l'année. Thomas, on l'a vu ensemble. C'est la semaine où sortiront Mort sur le Nid de Kenneth Branagh et Monster Hunter de Paul W. S. Anderson. Et j'ai tellement hâte.
Avec Mia Jovovich, oui. Ça va être.
Oh mon dieu, quel plaisir. Je sais pas quel film j'attends le moins entre les deux.
Quelque chose me dit que je vais préférer me coincer les doigts dans une porte ce jour-là.
Avec Thomas, on a aussi établi que l'année 2021, ça allait être l'année de l'horreur.
Oui, alors on s'est amusé. Alors, c'est pas définitif et les dates sont pas encore fixées, donc ça reste à voir. Mais grosso modo, de tous les films qui ont été reportés, ceux qui ont été reportés en 2020 sont ceux qui nous font envie, alors que ceux qui ont été reportés en 2021 sont ceux qui ont l'air vraiment affreux. Mais bon, c'est une règle générale, il y a des cas particuliers. Hein.
Mais... Non, mais c'est connu, hein, c'est après la peste, le choléra. Hein. Donc,
voilà. Il y a quand même des bons trucs qui vont sortir en 2021. Il y a Edgar Wright qui a annoncé qu'il allait sortir son film. Faut pas perdre espoir.
En avril, c'est vrai.
Il va y avoir quelques bons trucs, je pense. Et puis, du coup, il y a moyen même que d'autres sorties, enfin, je sais pas, Dune, il risque d'être décalé, il y a encore, on sait pas trop.
Il y aura Kaamelott!
Et Kaamelott sort 2021 du coup quand ça annonce.
Non,
2020 toujours.
Je viens juste d'y penser.
C'est toujours pour. C'est toujours pour la rentrée cette année là. Aïe aïe.
Elle sera pas en novembre.
Il va y avoir quand même. Je pense qu'en vrai, même si oui, il va y avoir peut-être plus de purges qu'à l'accoutumée. Il y aura quand même des trucs à se mettre sous la dent, j'espère.
Jungle Cruise.
Ah bah voilà. Parfait.
Black Widow.
Putain, enfin mon dieu.
Oh seigneur.
L'horreur, quasiment le nazisme.
Black Adam, Shazam 2.
Oh, putain.
Merci
les comic book movies d'exister pour me faire aller moins au cinéma qu'à l'occulte.
Suicide Squad, David Ayer cut.
Non, t'as dit Suicide Squad, j'ai eu la nausée, arrête.
Va y avoir toutes les cuts l'année prochaine, c'est incroyable.
Déjà, il va y avoir le James Gunn, mais si ça marche pas, ils vont demander la David Ayer, ça va être génial.
Mais Thomas, t'as parlé de tes plateformes, quoi, ou pas?
Alors moi, pour l'instant, j'ai gardé Outbuster, mais c'est vrai que bon,
c'est du beau choix.
C'est des petits films sympas, voilà. J'ai gardé la Cinéthèque, voilà. Par contre, j'ai gardé la Cinéthèque, voilà. Parce que Mubi aussi, c'est sympa, mais c'est bon. J'étais moyennement satisfait du choix qu'on a fait. Et puis, je trouve que la Cinéthèque est plus sympa, même si c'est très subjectif et quand elle est, les deux sont très bien. Voilà, c'est juste.
C'est complètement différent après, mais oui, je comprends. Après, le truc qui est bien, c'est que du coup, maintenant.
Si tu me dis qu'ils mettent à dispo une.
Ah bah là, maintenant, il y a genre peut-être 600 films. Côté, là, il y a peut-être genre 500 films. Enfin, je sais pas combien il y en a, c'est hallucinant. Et quand ils ont annoncé ça, j'étais pas, je me suis dit, bon, ils vont faire peut-être comme Carlotta, tu vois. Peut-être une petite sélection de films par-ci par-là. J'ai passé peut-être 2 heures à éplucher le catalogue. Bon, par contre, c'est pas, c'est Mubi, donc l'ergonomie est pas folle, hein, mais bon. C'est, les films proposés, il y a vraiment, pour s'ouvrir, niveau culture, c'est intéressant, et du cinéma philippin, comme du cinéma français, avec du Truffaut, comme, je sais pas, du Godard, du cinéma américain. Bon, pas beaucoup de trucs classiques Hollywood, mais à quoi faire, ils ont mis des trucs, genre, il y a un cinéaste français qui s'appelle Jean Painlevé, qui a fait des documentaires aquatiques dans les années 30, par exemple, et il y a une sélection, je sais pas, 10-15 films comme ça. Ça a l'air très beau. Et voilà, c'est très varié. Donc c'est bien, c'est toujours un acteur intéressant en plus, quoi. Enfin, encore plus intéressant qu'il l'était, je veux dire.
Bon, ben je crois qu'on a commencé les recos un peu, j'ai l'impression, donc autant y aller de plein pied, tant qu'on recommande ce qui se passe sur les plateformes, autant en profiter. Bon, cette fois-ci, ben, je peux pas vous dire de recommander sur une plateforme, puisqu'on n'a pas parlé vraiment d'une plateforme en particulier. Donc c'est un peu open bar sur les recos, enfin limité à 2 quand même, on va se calmer les gars. Ellie, t'as commencé, donc je te laisse faire tes recos.
Moi j'ai prévu que 2 en plus, j'ai été sage.
Je t'en prie.
Bah, en fait, j'ai réagi par rapport au film qu'on a vu, et comme on a vu The Room, qui parle entre autres, enfin principalement même de la peur de la parentalité, etc., et bah, je vais recommander le film Eraserhead de David Lynch, donc son tout premier film. Donc,
mais un énorme avertissement quand même.
Oui, bien sûr. Attention, c'est pas, voilà, c'est très particulier, c'est un film qui est particulièrement anxiogène, qui est très très déroutant, c'est assez expérimental, surréaliste, c'est vraiment un délire lynchien assez fou. Donc si on n'est pas habitué avec son cinéma, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée, mais ça peut être aussi une tentative intéressante. Et donc en fait, dedans, on suit un personnage qui s'appelle Henry, qui est interprété par Jack Nance, qui va rencontrer ses beaux-parents et s'installer avec sa petite amie qui est enceinte, et elle va accoucher, et ça part en vrille. Voilà, pour résumer, il y a en plus une idée un peu de confinement, parce que tout le cœur du film se passe dans le petit appartement d'Henri, et voilà, et c'est sur un personnage qui va essayer de gérer tout ça, alors qu'il est pas du tout prêt. Sauf que bien sûr, c'est sa version David Lynch, donc c'est très chelou. Et donc, voilà, comme je disais, c'est pas forcément évident à regarder, mais ça peut être très intéressant, et franchement, je pense un de ses tout meilleurs films à David Lynch, alors que c'est son premier, et donc voilà. Et sinon, une reco qui en est pas vraiment une, c'est juste, bah, comme Michel Piccoli est mort la semaine passée, et Jean-Loup Dabadie aussi, dans la foulée, bah, même s'il est passé à la télé, je propose de voir Les Choses de la Vie, de Claude Sauté, qui est un de mes films français préférés, et un film bouleversant, donc qui rappelle que la vie, c'est une accumulation de plein de petits détails, et que c'est un peu ce qui en fait le charme, et que c'est beau de la vivre, et il y a une relation entre, enfin, il y a le couple Michel Piccoli et Romy Schneider, qui est très très juste, dedans. Et voilà, c'est un film fort, avec une mise en scène vraiment virtuose. Et en plus, pour ceux qui veulent se mettre l'eau à la bouche, ils peuvent aller écouter la chanson d'Hélène sur YouTube, qui est donc une chanson basée sur la BO du film, interprétée par Piccoli et Schneider, justement. Voilà. Rien que d'en parler, je les sanglots.
Merci. Belle reco. Y a ça ?
Alors pour moi, cette semaine, ce sera pas des films, parce que j'ai majoritairement fait musique et lecture. Donc en ce qui concerne la musique, retour sur Arte Concert, où il y avait la retransmission du concert de Lynyrd Skynyrd au Hellfest de l'année dernière. Voilà, c'était une heure de pur bonheur, je me suis éclatée. C'est parmi les papas du rock, et voilà, c'est si vous aimez ça, allez-y, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est du bon rock, hein. Voilà. Et vous allez même découvrir, si vous ne connaissez pas le nom du groupe, vous allez forcément reconnaître des titres, parce que voilà, c'est des gros gros succès qui sont là depuis longtemps. Deuxième reco, ça sera un bouquin, ça s'appelle Cherub, et c'est une série de livres d'espionnage. Alors c'est des adolescents qui deviennent espions, c'est assez rocambolesque. ça reste des ados, donc très souvent, j'ai très envie de les gifler parce qu'ils ont des réactions complètement débiles. Mais à la fois, c'est des espions, donc ils font des trucs super géniaux. Donc voilà, c'est un petit peu la lecture détente où je me prends pas la tête et je prends vraiment du bon temps à lire ça, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu mes fantasmes adolescents qui reviennent quand je rêvais d'être engagée par la CIA, quand je savais pas encore que c'était dangereux. Donc voilà.
Merci à ça. Thierry, tes recos ?
Ouais, alors deux recos. Donc une qui est sur Outbuster, parce que du coup j'ai quand même continué à pas mal décortiquer la plateforme là en une semaine, j'en ai maté à peu près un par jour. C'est Microhabitat. Alors c'est un film coréen qui est une petite surprise, hein, comme souvent avec les films coréens, vous me direz quand j'en parle, qui parle donc de Miso. Miso en fait c'est une jeune fille qui se retrouve dans une situation assez particulière, c'est-à-dire que elle travaille pas énormément. Là elle vient de trouver un travail en tant qu'aide ménagère pour une nana qui tient un salon de manucure, donc du coup elle va travailler là, mais j'imagine qu'elle gagne pas. Enfin, on dit son salaire, ça a l'air de lui convenir, mais vu le peu qu'elle travaille, elle ne doit pas gagner grand chose. Elle est dans un appartement qui est très insalubre, comme beaucoup, beaucoup de classes très basses en Corée qui galèrent à mort à se loger. Pense aux entresols dans Parasite, hein, avec la famille Kim. Et en gros, elle réalise tout à coup que, enfin, elle s'est mise à fumer, en partie à cause de la patronne du salon. Et elle réalise que le paquet de clopes qu'elle prend habituellement, on lui dit que ça passe de 2000 won à 4500 won. Tout à coup, donc le coût de la vie n'augmente pas, il double sur ce genre de choses. Et du coup, elle fait une liste de ce qu'elle doit abandonner dans ses dépenses mensuelles pour justement pouvoir continuer à fumer. Et elle décide de laisser tomber son logement, en fait. Donc elle prend ses clics et ses claques, elle se casse comme ça du jour au lendemain avec ses valises. Elle prend une liste de potes et elle décide d'aller les voir un par un et de leur demander de l'héberger. Et donc en fait, le film va se présenter comme un ensemble de portraits. On va aller rencontrer chacune de ces personnes qui vont l'héberger à tour de rôle, avec des fois la désapprobation du copain de Miso, qui veut pas par exemple qu'elle aille chez des garçons ou quoi que ce soit, parce que c'est le déshonneur, pas aller chez des gars, voilà. Plein de choses comme ça. Et on va voir en fait un portrait, voilà, de la vie des Coréens. On va tomber sur toutes les frustrations sociales, sur des nanas qui par exemple, elles se sont trouvées un mari, du coup elles vivent avec, elles peuvent plus sortir de chez elles sont obligées de travailler dans la maison et de s'occuper de leur mari, des beaux-parents, et dès qu'elles font un truc mal, elles se font taper sur la gueule. Et voilà, c'est suggéré, mais c'est aussi, il y a des choses qui sont montrées, il y a plein de choses. Et on va faire, voilà, un panel de toutes ces espèces de pressions sociales coréennes qui te disent que, en gros, si à 30 ans t'as pas de mari, t'as raté ta vie, si à 30 ans t'as pas de femme, t'es un mauvais garçon, reste avec chez tes parents et ne te montre plus dans la société. Et Miso va passer de foyer en foyer, elle qui est totalement libre, du coup, qui a juste pas de logement et qui s'en fout royalement, et va un peu chambouler tout ça. Et c'est super beau, c'est vraiment un ensemble de portraits, tu passes un super moment, c'est tout doux. Tu plains un peu tout le monde, t'as envie d'aller changer le monde avec eux, et voilà, c'est vachement bien. Donc Microhabitat, et j'étais un gros vent, plus personne ne parle.
Mais non, mais on t'écoute.
Continue.
Et alors la deuxième, donc c'est un film classique qui date de 61, donc je suis allé le chercher, vous pouvez potentiellement le louer, toujours sur Apple, 3,99€.
Cher.
Pour ce que c'est pas cher, c'est Les Désaxés de John Huston. Donc ça, c'est quand même bien plus connu. Les Désaxés, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de Roselyne, qui est jouée par Marilyn Monroe, qui est une jeune divorcée, donc ça se passe à Reno, qui est la ville où on peut divorcer assez facilement, et qui va en fait se lier d'amitié avec un fermier qui prétend justement être totalement libre, être hors des conventions, il a pas d'employeur, il travaille tout seul, il est libre comme l'air, il bosse quand il veut, il gagne de l'argent quand il en a envie, et il est joué par Clark Gable, et du coup elle va se retrouver liée d'amitié avec lui, il veut beaucoup plus, elle beaucoup moins, et en fait à partir de là, elle va se retrouver dans une sorte, pas de triangle amoureux, mais elle va être l'objet de toutes les convoitises. Tous les potes de ce mec-là vont se mettre à lui tourner autour, à lui demander des avances. Elle va s'y refuser régulièrement, se rendre compte qu'en fait, elle n'est qu'un objet de désir pour eux. Et c'est assez intéressant parce que ça parle en fait de tout le mythe américain, parce qu'elle le fantasme énormément en se disant « c'est génial, attends, le mec c'est un héros américain qui a fait l'American Dream ». Et en fait, voilà, elle va se rendre compte que c'est aussi des pauvres types qui vivent de choses finalement pas forcément très légales et pas très éthiques non plus. Et voilà, et ça va être la descente aux enfers de cette espèce de mythe américain tel qu'on le voyait, parce qu'on est en 61, on est sur la fin, justement, même le cinéma est en train d'avoir un certain tournant, et ça se sent dans le cinéma de John Huston qui commence à éculer tous ses clichés pour justement partir sur d'autres bases. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est au début des années 60 et que ce film parle d'objectisation de la femme. Alors, c'est pas les critiques qui lui sont faites généralement, j'ai cherché un petit peu, c'est assez décevant d'ailleurs de voir qu'on l'a pas nommé comme tel, mais justement, on parle d'une femme totalement libre qui se refuse à tout homme et qui va justement péter un cap parce que tous les mecs passent s'imaginer, enfin, autre chose que de l'avoir dans leur pieu, quoi. Et c'est ce qui est assez génial, ça parle de spécisme aussi. Et c'est assez fou que ça en parle aussitôt et aussi bien, voilà. Et on retient surtout ce film, parce que bon, il a pas du tout marché, mais on le retient surtout parce que c'est le dernier film qu'a fait Clark Gable. Il est mort 12 jours après le tournage, en partie parce qu'il était épuisé de ce tournage.
De Marilyn.
Et il disait de Marilyn Monroe qu'elle lui avait limite filé des attaques cardiaques sur le tournage tellement elle était vive et tellement ils avaient du mal à s'entendre. Et c'est, bon, selon beaucoup, c'est ce qui l'a tué, mais on sait pas vraiment, il est sûrement en mauvaise santé, il avait 59 ans. Et Marilyn Monroe qui était déjà excessivement dépressive, donc les réceptions du film et aussi, de toute façon, les constats sociaux qu'elle faisait déjà dans ce film l'ont énormément encore plus anéanti. Et bah, 2 ans après, on savait qu'elle mettait fin à ses jours en partie à cause de ça, et parce qu'elle aura même pas terminé le film dans lequel elle jouait par la suite. Donc on l'a retenu pour ça. C'est dommage qu'on l'ait retenu en grande partie que pour ça, en mode regardez, c'est le dernier film de Deux Géants. Parce que c'est un film qui est extrêmement important dans ce qu'il raconte. Ellie, je crois que tu l'as vu, donc tu peux sûrement confirmer.
Non, pas du tout. Pour le coup, j'ai pas vu. Ah, mais, je connaissais le background avec le côté très crépusculaire du film, mais aussi le fait que il a été écrit pour Marilyn en fait le rôle par son futur le mec qui s'est marié avec ou qui allait se marier, je sais plus.
C'est ça.
Arthur Miller. Et c'est ce qui fait aussi que c'est très intéressant d'un point de vue sociologique, le fait d'étudier le rapport à la femme américaine, en plus Marilyn Monroe qui est quand même c'est pas n'importe qui quoi, c'était vraiment le sexe symbole américain donc ça a l'air intéressant. Ouais, c'est un film que j'ai envie de voir depuis longtemps, donc qu'est-ce que...
Non, on éclate les deux images, elle on lui éclate son image de sexe symbole et Clark Gable on lui éclate son image de bel homme possible quoi, c'est bien.
On l'éclate tout court, oui.
Bon, parce que j'hésitais à faire la blague
quelque sorte, ouais.
Je suis là pour ça.
Ça m'a donné envie, en tout cas.
C'est fait pour ça. Ouf, tant mieux, c'est réussi.
Et moi, tout le monde s'en fout.
Mais non, ce que j'ai dit, et toi,
on attend,
Thomas.
On attend.
On s'est dit, ça y est, Thomas va nous donner les 2 meilleurs recos de l'émission.
Évidemment, comme d'habitude. Non, alors pas 2, du coup, non, parce que déjà, la première, c'est un peu foireux, parce que c'est pas vraiment une reco. C'est ce week-end, là, dans les séries. Je regardais, alors sur Netflix, oui, parce que j'ai pas compté Netflix et Amazon que j'ai, mais c'est parce que c'est partagé avec la famille, c'est compliqué, tout ça. Je regardais Hollywood, qui est une série qui parle d'Hollywood. Juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une version un peu romancée, un peu idéalisée, qui se dit, tiens, si on faisait des films avec des noirs et des homosexuels dans l'Hollywood d'après-guerre. Et donc le principe, le speech, ce sont des acteurs, des jeunes acteurs et réalisateurs qui sont prêts à tout pour faire un film. Et c'est un peu glauque, même si la couleur est jolie, même si c'est tout beau, tout brillant comme Hollywood, c'est quand même un acteur qui va se prostituer, ou même pas le seul d'ailleurs, mais qui va se prostituer pour en attente de gagner assez d'argent pour survivre et rester à Hollywood. C'est de la promotion canapé, c'est des personnages assez affreux. On a Sheldon Cooper, enfin je l'appelle comme ça, c'est triste, dans Big Bang Theory, c'est Jim Parsons qui joue, le nom de l'acteur c'est ça, hein, donc qui joue un agent vraiment affreux, homosexuel, qui ne recrute ses acteurs mais qu'en les abusant sexuellement, donc c'est... C'est une sorte de Weinstein, si tu veux, mais il n'est pas producteur, il est agent. Enfin bon, bref. Donc, on retourne l'icône, on utilise. Alors ça, c'est intéressant sur ce que ça dénonce. Et puis, à un moment donné, il y a un basculement de la série qui part en utopie où tout va bien et tout est brillant et tout le monde est sympa, qui est assez déroutant, pour pas dire autre chose. Donc, je sais pas trop où caler par rapport à cette série. Il me manque le dernier épisode. J'imagine que ça finit bien, mais en fait, j'en sais rien, parce qu'il manque un épisode. Donc, je suis très curieux de cette série que j'entends dire de tout et de rien, des gens qui adorent, d'autres qui détestent, tout ça. Parce qu'il y a le côté utopiste que certains trouvent génial et d'autres, au contraire, trouvent très gnangnan. Et c'est vrai que par moments, c'est un peu le monde des bisounours. Donc, c'est une semi-roco pour celui-là. Par contre, je vais compenser, donc je ne vais pas donner la meilleure roco, ni les 2 meilleurs roco. Je vais donner la 100aine de meilleurs roco d'un coup. Puisque, alors vous savez que les festivals sont fermés, hein. On n'a pas eu de festival de Cannes, on avait notre ami Quentin dans une émission précédente qui était très triste. Eh bien là, la semaine prochaine sur YouTube, même maintenant en fait, au moment où vous entendez cet épisode, même au moment de sa sortie, du 29 mai au 7 juin, il y a un festival du film sur YouTube organisé par Tribeca et en collaboration avec d'autres grands festivals comme Cannes, justement, Sundance, Tokyo, Berlin, même Annecy, Londres, enfin... plein d'autres festivals de films qui, pendant 10 jours, vont passer sur cette chaîne YouTube des films, des courts-métrages, des longs-métrages. Ça s'appelle We Are One Global Festival. Donc c'est en ligne sur YouTube. Ça a pour but de récolter des fonds également pour la recherche contre la pandémie. Donc c'est pour la bonne cause. Il y aura 23 longs-métrages, 8 documentaires, 57 courts-métrages, 15 courts-métrages de documentaires, des vidéoconférences d'archives, des exclusivités, des festivals, des œuvres en réalité virtuelle. Il y aura énormément d'offres pendant toute une semaine sur cette chaîne YouTube. Et c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Si vous pouvez pas aller dans un festival, là, il y en a là, la semaine prochaine. Alors moi, je suis un peu dégoûté parce que je vais être en déménagement. Je vais pas pouvoir en profiter. Voilà. Mais bon, j'y jetterai un petit coup d'œil de temps en temps. Ce sont des festivals qui contribuent en mettant quelques heures de programme chacun. Petite sélection offerte par chaque festival. Ça s'appelle We Are One. E Global Festival, c'est sur YouTube.
Sympa.
Et c'est donc la fin de l'émission. Merci, chers amis. C'est pas facile à dire merci, chers amis. Ah non, si ça va, j'arrive. Merci à ça.
Merci Thomas.
Merci Ellie.
Merci.
Merci Thierry.
Je réalise que j'étais vraiment à la masse pendant cet épisode. Alors, on va falloir rattraper ça. Mais bon, merci quand même les copains. Et on va choisir des meilleurs films hein, pour la prochaine fois.
Alors, la prochaine fois, je te laisse les clés du camion, parce que je l'ai dit, je serai en déménagement, donc je ne pourrai pas être dans la prochaine émission. Mais donc, c'est Thierry qui s'occupe de la sélection.
Je crois que j'ai les clés du camion, je vais pouvoir faire la voix de Jamy et tout, ça va être génial.
Hey, Jamy
Je vais faire des voix off si tu veux.
Alors, Thierry, et alors, fais des samples de toi, et puis on les mettra aléatoirement sur les films en faisant croire que c'est ce que t'as pensé.
Ah, là, c'est vraiment de la merde.
Comme Thomas est pas là, je pense qu'il faut faire un focus sur Harakiri. Alors c'est le bon moment.
C'est le moment. Je vous laisse me faire la surprise de la prochaine programmation. C'était Certains les Machos. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict bien sûr, et bien d'autres. Et même sur YouTube depuis peu, on a mis des épisodes au show en ligne sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, C-L-A-A-C podcast, et nous laisser des petits messages. Est-ce que vous avez aimé l'émission? Est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Ou au contraire, qu'est-ce que vous avez adoré qu'on peut garder? Qu'est-ce que vous avez pensé des films également? D'ailleurs, on remercie, on a eu des messages, alors soit en MP, soit même on a eu des threads sur l'émission, sur des émissions précédentes sur la Cinéthèque. On a eu un thread sur la Cinéthèque. Ça nous a fait plaisir. Visiblement, on a eu une auditrice qui a beaucoup apprécié. Donc, on salue Johanna. On lui fait coucou.
Bisous.
Et également sur iTunes aussi, sur Apple Podcast, vous pouvez aussi commenter, ça fait remonter la visibilité de l'émission et donc ça permet de la faire découvrir à plus de monde aussi. Si vous avez aimé, partagez, puis partagez aussi à vos amis parce que finalement, nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Si vous avez aimé l'émission, le meilleur moyen de la soutenir, c'est de la partager, de la faire connaître et d'en parler autour de vous, d'en parler à vos copains ou à d'autres amateurs de ciné ou même ceux qui connaissent pas forcément le ciné à fond. C'est comme ça aussi que vous pouvez nous aider. On se retrouve à la semaine prochaine. Enfin, moi, je vous retrouve plus tard. Mais en tout cas, je vous laisse entre les mains de Thierry qui va très très bien s'occuper de vous la semaine prochaine.
Oh, toi, tu me flattes.
À très bientôt. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Bisous. Bisous.
Ah, on a pas... Qui n'a pas mis son téléphone en veille?
C'est
le téléphone de Dora, ça, non?
C'est bon, tu peux reprendre, excuse-moi.
Alors, on aurait le choix entre pas mal de films.
Attendez, attends, Thomas.
Oui.
On n'a pas fait de clap et moi, j'ai pas lancé mon enregistrement.
Ah merde!
Sérieux?
Ouais. Ça, je t'arrête vite.
Heureusement que j'ai demandé 3 fois si vous aviez lancé l'enregistrement.
Ah bah, j'ai pas dû entendre, alors j'ai dû avoir un bug ouais, parce que j'ai pas entendu.
Alors, ouais. Eh ben, allez, lance-le, je t'en prie.
J'ai désolé.
Un peu chelou parce que tant de buzz, enfin
là, c'est bon. C'est fait.
Avec moi, le Vin Diesel de l'émission. Celui qui rate parfois de lancer l'enregistrement, mais qui se rattrape très vite après parce que c'est un super héros de film. Thierry, salut Thierry.
Je s'appelle Thierry.
C'est con, on avait toute une déconnade sur Je s'appelle Groot, tout ça. Bon, cela dit, on a l'enregistrement Craig, donc c'est pas complètement perdu.
Ouais, non, il y a même un super truc où t'as dit que je ressemblais à Vin Diesel et tout. Voilà.
De film d'auteur.
J'étais heureux, puis après on m'a rappelé que ben on n'avait pas tout à fait la même carrure non plus. Ah, t'as vu comment on était parti d'une intro joyeuse et là ça y est, on va rentrer dans le mélodrame.
C'est le mélodrame. Non,
parce que tu vois, moi des fois je me regarde dans le miroir et je me dis si seulement je maîtrisais Photoshop, je pourrais faire croire que je ressemble à Vin, tu vois. Vin, il adorerait boire de la Corona avec moi si seulement je rentrais dans son petit 28.
Ah, mais en fait, tu es Vin Diesel après le tournage de Fast and Furious quand tu s'est envoyé 5 caisses de Corona.
Quand les assistants post-prod partent manger.
En fait, c'est toi la doublure pré-prod de Vin Diesel.
C'est ça. Bon, en fait, je suis la doublure abdo, mais c'est de très très près. On me demande juste de me mettre en boule. Et voilà. Je s'appelle Thierry.